Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui en première partie par Daniel Amich, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 25 octobre 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 26, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à l'adresse contact@radiocourtoisie.com.
Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue en direct du studio Jean Ferré de Radio Courtoisie, ainsi que je le baptise ce soir, parce que son portrait est là, qui nous observe avec intérêt. Et je voulais profiter d'ailleurs de cette émission nouvelle, en fin de compte, depuis le rappel à Dieu de Jean, pour dire un petit salut amical à tous les amis de Radio Courtoisie qui sont venus à ses obsèques. Et c'était extrêmement émouvant et on a eu beaucoup de manifestations de sympathie et je tenais à les remercier tous de ce geste qu'ils ont fait de venir pour ce dernier salut au patron de cette station. Ce soir, nous avons un grand sujet pour cette première partie. J'annonce tout de suite, enfin, il y a une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Bon, alors la mauvaise nouvelle, c'est que je fais la première partie du Libre Journal de Serge Bekech. La bonne nouvelle, c'est que Serge Bekech fera la seconde partie du Libre Journal que je dirige quand il n'est pas là. Enfin, on se construit au fond de la classe, pas tout à fait, mais c'est pas grave, on vous expliquera. Donc il sera là tout à l'heure à 19h30 pour une émission en direct. Et nous allons parler ce soir avec les deux invités, dont l'un est déjà arrivé et l'autre, j'espère, ne tardera pas à arriver. Nous allons parler de deux insurrections de la conscience. Deux insurrections, deux soulèvements catholiques. L'un en France au XVIIIe siècle, c'est celui des Vendéens, et un autre au Mexique, c'est celui des Cristeros. Et nous aurons ce soir, pour cette émission à double voix, deux amis, Hugues Carali, qui est un écrivain, un journaliste, et dont vient de paraître aux éditions de l'Homme Nouveau la véritable histoire des Cristeros, et également Reynald Secher, historien lui-même, écrivain, éditeur, à propos de la réédition de son ouvrage sur la Vendée vengée, le génocide franco-français, paru aux éditions Perrin. Il n'aura pas échappé à beaucoup de nos auditeurs qu'actuellement la presse quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, française, européenne, internationale et jusqu'au fin fond de la galaxie bruisse des rumeurs de la libéralisation du rite. Vous-même, Victoria, que je n'ai pas encore salué, bonsoir mon petit cœur. Alors vous-même n'êtes pas, vous qui écoutez, qui lisez pas de journaux, qui écoutez pas la radio sur Radio Courtoisie, vous savez que ça, il y a quelque chose qui se prépare. Alors,
il se prépare quelque chose.
Qu'est-ce qui se prépare exactement? Très honnêtement parlé, je n'en sais rien. À quelle date la chose sera publiée? Je n'en sais pas davantage. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce texte dont j'ignore tout? Eh bien, je sais rien non plus, je sais absolument rien. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que beaucoup de gens sont absolument sûrs de savoir ce qu'il y a dedans. Et alors, on a vu une chose tout à fait surprenante, alors qu'on n'a vu aucun évêque à la dernière marche pour la vie à Paris, où leur place était quand même toute désignée, on en voit un certain nombre, bon, je dirais aller un quart de rond, comme disait quelqu'un, Et quelques prêtres, une vingtaine à ce qu'il paraît, ce qui fait peu par rapport à l'ensemble du clergé français, et puis alors un ou deux groupes de laïcs engagés dans le service de l'Église, commençaient à enfourcher les canassons de la sécession pour monter à l'assaut d'un texte et d'une décision du pape dont ils n'ont pas encore lu le premier mot de l'incipit. Ce qui est quand même très intéressant, je dois dire, très intéressant. Ça montre que ce que disait le pape dans son magnifique, extraordinaire, époustouflant discours à l'université Regensburg de Ratisbonne sur la raison ne semble pas encore avoir été bien lu et bien assimilé par un certain nombre des têtes pensantes de l'épiscopat qui est en France. Avec un certain nombre de choses assez contradictoires, parce que je lisais de façon très amusante un entretien, je dis pas interview, parce que là il y a un petit cochon, dès qu'on dit un mot anglais, pouf, faut mettre une petite pièce, j'en fais très très attention, hein. Ou alors je mets des guillemets qui s'entendent très fort à la radio. Monsieur d'Angoulême, comme on disait dans des siècles meilleurs, qui s'appelle Claude d'Agens, et qui est donc l'évêque de la ville dont je viens de citer le nom, a donné une interview très intéressante à La Vie ci-devant catholique, dans laquelle on peut lire ces choses intéressantes. Nous, les évêques, nous souhaitons être informés pour exercer notre discernement avec l'évêque de Rome et sous son autorité. Si jamais on voulait de manière autoritaire imposer un biritualisme, on serait dans une situation grave et préoccupante. Alors, j'appelle l'attention de nos éditeurs qui ont l'oreille fine sur le fait que dans la première phrase, l'évêque reconnaît qu'il est sous l'autorité de l'évêque de Rome, et ensuite reprocherait même à ce même pape un acte autoritaire. C'est faut comprendre, mais enfin c'est comme ça, quoi. C'est le français qu'on cause aujourd'hui dans la conférence épiscopale. Alors que moi je sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai pas du tout l'impression que le pape veut imposer à tout le monde la messe de Saint-Pierre, qui veut simplement en permettre l'usage et la célébration autant qu'il est possible et autant que faire se peut, autant que la demande l'exige. Hein, on veut rien imposer du tout. Donc il y a là des choses très intéressantes. Alors il y a eu d'autres évêques qui se sont exprimés sur cette question, avec des propos manquant beaucoup d'urbanité pour Benoît XVI. D'autres évêques ont dit qu'ils voyaient pas du tout où était le problème. Alors Monseigneur Centaine de Vannes, Monseigneur Ray de Toulon, ont trouvé que c'était très bien, qu'il n'y avait pas de problème, tout ça c'est très paisible, Jésus, il voit pas où est le problème. C'est quand même amusant, ça montre qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'unité. Et la prochaine assemblée plénière de l'épiscopat qui est français, qui doit se tenir à Lourdes au mois de novembre, je crois, ça va être intéressant quand même. J'aimerais bien une petite souris. là-bas. Et puis alors, c'est très beau, c'est un article du Figaro de samedi, là. C'est pas toujours très intéressant, Figaro, mais là c'était rigolo. Même les mots croisés sont plus ce qu'ils étaient, donc alors c'est extraordinaire. Alors vous avez ceux qui sont déjà contre quoi qu'il y ait dans ce texte en préparation ou à la signature ou déjà signé ou à promulguer, je n'en sais rien. Il y aura quelque chose quand, j'en sais rien. Bon, il y en a qui sont déjà contre. A priori, ils sont contre. D'autres sont pour. Et puis là, il y a une troisième catégorie d'évêques. Il y a toujours trois catégories dans le monde. Et lui, il est assez courageux aussi, mais enfin pas trop quand même, hein. Parce que c'est un évêque qui donne des explications, mais sous le sceau de l'anonymat. Il veut pas qu'on dise son nom. C'est intéressant quand même. Hein. Il veut pas qu'on dise son nom. Il veut pas. Alors il dit la chose suivante: Rome crée des niches pour ses fidèles, car nous n'avons pas pris le temps nous-mêmes de traiter cette affaire. Ah, comme c'est intéressant. Nous aurions dû, regrette-t-il, nous doter d'instruments d'accueil, de régulation et d'accompagnement pour permettre à ces communautés de s'inscrire dans la réalité de l'Église et non pas de la rejeter. C'est quand même passionnant de lire des choses comme ça. C'est dommage qu'il ait décidé de pas donner son nom. C'est dommage. Voilà. Bon, enfin bon. La faute étant à moitié avouée, elle sera à moitié pardonnée. Voilà, je pense que Carly, ça vous inspire quelque chose, ces trucs-là? Parlez bien près du micro.
Aucun sentiment de courtoisie à exprimer vis-à-vis des évêques, c'est très imprudent de m'interroger là-dessus.
Bon, alors donc je préfère ne pas vous interroger parce que voilà. Merci. Alors, je voulais dire que ça nous a, un certain nombre de camarades, de journalistes catholiques, ça nous a tellement énervé cette histoire, alors que dans l'ensemble des épiscopats du monde entier, dont on surveille très attentivement toutes les déclarations, nous ne voyons pas du tout cette crispation d'un autre âge, cette... comment est-ce que je pourrais appeler ça, moi, cette arthrose dinosaurienne, dont certains de nos évêques semblent être atteints, sur un test, encore une fois, dont on ne sait rien. Ce qui est quand même formidable. Dire, commencer à critiquer une chose, on ne sait pas ce que c'est. Attendons le texte. La position de tous les évêques aurait dû être, écoutez, vous nous m'interrogez là-dessus, nous n'en savons rien, il y a des rumeurs, nous attendrons respectueusement le texte du magistère, nous le lirons, nous essaierons de le comprendre, parce que ça c'est un peu compliqué à comprendre, des fois Ratzinger, c'est vrai qu'il est quand même à un échelon intellectuel très 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 au-dessus de la moyenne arithmétique de l'épiscopat français, et puis nous ferons le commentaire dont nous estimerons avoir affaire. Voilà, ça c'est une position correcte. Non, on commence à critiquer. Alors il y a un nombre de camarades journalistes catholiques qui ont dit, bon, ça commence à bien faire tout ça, cette espèce de défiance, de schisme froid, de schisme mental, qui est dans la tête des évêques, doit absolument être arrêté. Et pour l'arrêter, la seule solution, c'est d'affirmer son soutien au pape. Voilà, le pape, c'est le pape, il a la charge de l'Église universelle, il est là pour confirmer ses frères, tous ses frères dans la foi, soit des évêques, des cardinaux, des prêtres, des diacres, ou nous autres fidèles du troisième rang de l'Église, et ils ont lancé une pétition. C'est donc l'homme nouveau qui a lancé cette initiative absolument, mais extrêmement rigolote. Ils ont lancé une pétition avec un texte très très intéressant, et puis un joli texte qu'on peut copier, coller, ou dont qu'on peut s'inspirer, et en demandant donc à tous ceux qui veulent soutenir le pape et les initiatives qu'il entend prendre pour que l'Église fonctionne comme elle doit fonctionner, eh bien de manifester son soutien à Benoît XVI. Moi je trouve cette initiative très bonne, très juste et très respectueuse en même temps. Bon, très respectueuse. Encore qu'il y a des mots un petit peu durs quand même. Bon, le texte est un petit peu dur. Enfin bon. Alors on peut découvrir ce texte et puis on peut surtout le recopier et puis s'inscrire à la liste de diffusion parce qu'une fois que tous les gens seront inscrits, moi je me suis déjà inscrit depuis longtemps, je dois dire avant, il faut être le numéro 4 ou 5, hein, c'était vite fait. Bon. Tous les messages seront donc apportés à l'annonciature de Paris qu'il transmettra au principal intéressé. Alors, on peut trouver toutes sortes d'informations intéressantes sur un blog. Alors ça, bon, je mets pas de pièce, mais c'est un mot blog, un blog. Voilà, c'est un site où l'on met des textes et puis ensuite on peut commenter les textes. Mais les textes sont à l'initiative de la personne qui fait le blog. Voilà, donc c'est le blog de nos amis de l'Homme Nouveau. On peut les trouver sous l'appellation. Il suffit d'appeler ça sur l'internet, sur un moteur de recherche, c'est facile. C'est Soutenons le Pape. Soutenons le pape en un seul mot, point. Haut et fort. Alors ça s'écrit haut et fort, hein. HAUTETFORT point com.
Répétez.
Soutenons le pape, point. Haut et fort, point com. Voilà.
Alors, fort, surtout, fort, vous mettez quand même.
FORT. Oui, haut et fort, comme de parler haut et fort. Hein, voilà. Point com. Voilà, c'est très marrant. Sinon, évidemment, on peut.
Attends, tout en un seul mot.
En un seul mot.
Soutenons le pape.
Ouais, ouais, soutenons le pape. Point. 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 Soutenons le pape. Point. Haut et fort. Voilà. Et sinon, bon, on peut s'adresser aux éditions de.
Et après, haut et fort, pardon.
Point com.
Point
com. Vous êtes un petit peu lente ce soir, je trouve.
Je suis à la fois lente, mais oui. Je suis compatissante pour les auditeurs qui sont comme moi.
Voilà.
Et que ces trucs tout attachés.
Voilà, sinon, si on veut le texte de pétition, on peut aussi écrire aux éditions de L'Homme Nouveau, 10 rue Rosenwald, Rosenwald, 75015 Paris. Voilà, on peut même les appeler à partir de demain matin, c'est-à-dire ce matin pour les gens qui vont nous écouter, nos amis qui vont nous écouter en rediffusion jeudi matin au 01 53 68 99 77. Voilà, je tenais donc à faire cette petite information. Quelque chose va arriver du Saint-Siège sur les questions de la liturgie traditionnelle, ça c'est absolument, c'est même plus probable, c'est sûr et certain. Quand, on ne sait pas sous quelle forme, on peut imaginer ce que ça pourrait être, qu'est-ce qu'il y aura dedans, alors ça j'en sais rien du tout. Alors attendons patiemment, avec confiance que la chose arrive, et puis nous verrons ensuite à en faire tous les commentaires que nous estimons judicieux d'en faire sur cette radio, dans les journaux et dans la télévision, s'il nous donne la parole. Voilà. Alors là, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Bruno Larobière. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Daniel.
Eh bien écoutez, on est très content de vous avoir au téléphone. Vous êtes le rédacteur en chef du Choc du Mois, dont le numéro 5 est paru il y a déjà deux petites semaines.
Voilà.
C'est à peu près ça, hein. Et alors, je tenais aussi à vous remercier parce que je sais qu'en même temps, c'est la même maison d'édition qui édite l'hebdomadaire Minute. Et j'ai lu un très beau texte en hommage à Jean Ferré dans le dernier numéro de Minute qui m'avait fait très très chaud au cœur. Donc je tenais, vous serez gentil, comme je sais que vous avez des liens extrêmement intimes avec la rédaction de Minute, de bien vouloir leur dire toute la reconnaissance que m'inspire cet hommage que vous avez rendu au patron de notre radio, alors que vous-même Minute n'est pas très très souvent, je dois dire, invité sur Radio Courtoisie et le Choc du Mois un peu plus.
C'est vrai, puisque vous en parlez, je pense que l'article n'est évidemment pas fait dans ce sens, parce que on sait ce qu'on doit à Jean Ferré. On sait le dur combat qu'il a mené pendant très 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 longtemps, et on tenait vraiment à lui rendre cet hommage. Donc je pense que Jean-Marie Balitor, qui est effectivement à la fois le directeur de Minute et le directeur du Choc du Mois, sera très sensible à la remarque que vous venez de faire, et peut-être pourrez-vous un de ces jours lui faire l'appeler et le conduire à parler deux minutes.
Vous savez que je suis toujours disposé à ce genre de coup, mon cher, vous le savez. Bon, voilà. Non, parce que je trouve que c'est un petit peu triste qu'on vous entende pas, alors que l'hebdo Minute est vraiment un hebdo extrêmement sympathique, plein de bonnes analyses, plein de petites informations brèves, de choses assez rigolotes. C'est sympathique, alors bon, ça m'étonnait un petit peu, mais enfin voilà. Alors bon, évidemment, moi je peux pas inviter tout le monde, hein, mes émissions sont quand même, c'est que je suis sous locataire, donc c'est toujours parfois un peu compliqué, et que en plus, bon, j'ai pas des émissions toutes les semaines, mais je veux dire que pour le Choc du Mois, non seulement j'ai vraiment, je me suis très honoré d'y collaborer autant que je peux, et surtout de voir la qualité de ce journal qui s'améliore d'ailleurs numéro après numéro, c'est de plus en plus lisible, et là je tenais vraiment à ce que vous soyez ce soir au téléphone pour que nous parlions ensemble essentiellement du dossier, si vous voulez, que vous avez consacré au numéro du Choc du Mois, qui vient de paraître donc il y a deux semaines, qui est toujours disponible chez les libraires, chez les marchands de journaux, enfin chez les marchands de journaux plutôt que chez les libraires. Ça vaut 6,50 €, on trouve ça en kiosque, c'est tout à fait formidable, parce que vous avez fait un dossier.
Il est vendu 6,50 € chez la plupart des marchands de journaux.
En gros, oui.
Non, ce qui est...
Mais vous m'avez dit qu'il y a une réduction, quand on achète par deux, ça ne coûte que 13 €, vous m'avez dit l'autre jour.
Eh bien, je vais faire mieux. Si on achète 3 exemplaires du même numéro,
oui.
Et 3 exemplaires de ce numéro, 5, octobre 2006, comment peut-on être gâteau ?
Oui.
Pour les auditeurs de Radio Courtoisie, ce sera 12 € les 3 numéros.
Bon, alors 12 € pour 3 numéros. Mais alors là, il faut déjà, on va donner l'information tout de suite, de telle sorte qu'on puisse ensuite se saluer. Nous ne parlerons pas de ce numéro, mais simplement, c'était une opération commerciale, comme chacun le sait. Alors donc, 3 numéros, 12 €, et on écrit donc à SACEM, SACE2M,
voilà,
51 boulevard Garibaldi, 75 015 par an, Paris.
Alors, combien boulevard
Nous sommes au 51 boulevard Garibaldi, 75 015 Paris. Quand je dis nous, c'est à nous de majesté. Je n'y habite pas. Voilà, ce numéro très intéressant, parce que j'ai fait ma première petite sortie radiophonique sur la polémique, une polémique typiquement franco-catholico-catholico-française, sur le texte du Saint-Père qui doit venir pour libéraliser, soi-disant, la messe de Saint-Pie-V. On verra comment tout ça va se passer. Okay. Mais déjà, il y a une espèce de levée de boucliers, enfin, de vieux boucliers tout moisis d'ailleurs, mais enfin, c'est quand même des boucliers. Et je veux dire que ça tombe bien, parce que votre numéro à vous, qui d'ailleurs est orné d'un très joli portrait du Saint-Père en de profil, est consacré au thème « Comment peut-être catho ?» Ben, comment avez-vous l'idée de faire un numéro sur cette question assez baroque ?
Pour différentes raisons. D'abord parce que nous sentions bien que nous étions dans l'actualité, qu'il se passait des choses et qu'il allait s'en passer. Il s'en est passé plus d'ailleurs qu'on l'avait imaginé, puisque pendant que nous étions en train de réaliser ce numéro, il y a eu l'accord de la nativité, c'est-à-dire la création de l'Institut du Bon Pasteur, puis il y a eu le discours de Ratisbonne, puis il y a eu l'affaire de l'opéra de Mozart déprogrammé à Berlin au motif qu'il risquait d'offenser certains mahométans, puis intervient maintenant effectivement Motu Proprio sur la messe Saint-Pie-V. Donc il y avait une raison d'actualité, puis il y avait une raison de fond, qui est que comment peut-on être catho lorsqu'on est catholique, catholique pratiquant, ça tombe sous le sens, mais lorsqu'on ne l'est pas, ce n'est pas le cas.
Oui, bien.
Et le catholique pratiquant étant aujourd'hui en France minoritaire, il me semblait intéressant, bah oui, il faut dire les choses comme elles sont.
Ouais.
Le catholique culturel est encore majoritaire, le catholique pratiquant, réellement pratiquant, c'est-à-dire pas au sens où l'entendent les instituts de sondage selon lesquels on est pratiquant lorsqu'on va à la messe 12 fois par an, vous faites le compte entre les mariages,
les obsèques,
etc. Le compte est bon pour un grand nombre de gens. Lorsqu'on y va réellement tous les dimanches, on est vraiment très minoritaire. Donc, il nous semblait intéressant et important de brosser la galaxie des cathos français, de montrer qui sont les cathos. Pourquoi ils le sont, comment on devient séminariste, comment on vit sa foi au quotidien, parce que, encore une fois, il semble que pour une bonne partie des Français, et donc des lecteurs potentiels du choc, ce n'est pas évident.
Pas évident, ouais. Alors il y a beaucoup de, vraiment, c'est un gros dossier avec énormément de témoignages. Il y a des choses qui sont très émouvantes. Je veux dire que on a lu avec, enfin j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le texte ou plutôt le commentaire que vous faites des propos de Christophe, enfin de ce musulman Mohamed Christophe Bib qui est converti au catholicisme, que j'ai reçu d'ailleurs dans ces missions et qui est très souvent reçu par Jean-Luc de Carbouche dans le Lumière Sonale, le livre journal du dimanche de Radio Courtoisie. Voilà un très beau témoignage. Également aussi beaucoup, on sent que là vous avez quand même un petit peu tiré les choses vers plutôt le secteur tradit de l'Église.
Vers le secteur tradit, non. Nous avons consacré un papier à un sujet aux traditionalistes, qui sont les traditionalistes et où en sont-ils, parce qu'on finit par ne plus savoir, je parle encore une fois dans le grand public, qui sont ces gens qui vont à la messe en latin, pour résumer, et donc de replacer ça dans la perspective historique. Bien évidemment est intervenue la création de l'Institut du Bon Pasteur, et il nous semblait difficile de ne pas en parler, parce que c'est un événement considérable. Mais je ne crois pas que ce soit un dossier dominante traditionnelle.
Non, mais disons qu'il y a un bon...
C'est un dossier dominante, comment dit-on, bénédicti...
Benoît Saisiste,
parce que il se passe énormément de choses grâce à Benoît XVI, sous l'impulsion de Benoît XVI, quelles que soient les réticences importantes dans l'Église de France, peut-être surexposées médiatiquement aussi, quand on voit un petit peu de près ce qui se passe dans l'Église conciliaire, comme diraient les traditionnalistes, ce qui se passe dans l'Église, où l'on découvre que la parole de Benoît XVI est reçue souvent, en tout cas dans des générations plus jeunes qu'un certain nombre d'évêques qui aujourd'hui protestent, écrivent des libelles, font des manifestes, que cette parole est reçue souvent comme une sorte de libération. C'est la contre-théologie de la libération. Il voit là, et on a fait le portrait d'un séminariste, j'en ai rencontré d'autres, que je n'évoque pas parce qu'on nous avons discuté librement et il ne souhaitait pas apparaître, et là j'ai pu constater à quel point était en train d'émerger une génération Benoît XVI marquée bien évidemment par Jean-Paul II, mais souhaitant dépasser ce qu'ils considèrent eux comme de vieilles querelles, souhaitant que Vatican II ne soit pas considéré ni comme une fin ni comme un début, admettant et même souhaitant et étant enfin soulagé qu'on puisse avoir des points de vue divergents et ne pas rester bloqué au discours très très dogmatique des années 60 et 70, c'est-à-dire qu'on en finisse avec l'idéologisation de la foi.
Pas mal, ouais. Un numéro très, vraiment très complet. Moi, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'amis l'ont lu. Généralement, qu'ils ont d'ailleurs un peu l'esprit, je dirais que ce sont des camarades qui ont un peu l'esprit critique sur toutes ces choses. J'ai trouvé que c'était pas si mal fait que ça, hein. C'est pas si mal fait que ça, ce numéro sur les cathos. Puis on retrouvera beaucoup, beaucoup de choses également dans ce.
Je vous remercie parce que vous savez que si Jean-Marie Molitor, directeur du Choc du Bois, est un catholique.
Oui.
Convaincu, moi-même, je ne joue pas à domicile, tout à fait, sur ce terrain-là.
Mais vous en avez la culture.
Mais j'en ai la culture, j'en ai gardé.
C'est votre côté maurassien, n'est-ce pas?
Voilà. Mais... Et donc j'avais la crainte, évidemment, de la petite erreur qui fasse que des critiques pleuvent, et non, je constate avec plaisir que c'est pas le cas.
Ah non, c'est...
Que c'est pas le cas, et que, à part, bien évidemment, chez les chrétiens progressistes, mais j'attends avec impatience numéro de Goliath.
Oui, bah ça, faut vous attendre, évidemment.
À
mais
part
ça...
de ce côté-là...
Mais ça, ce sera votre bâton de maréchal, si vous attaque. Hein.
Dans l'ensemble des milieux catholiques que je fréquente, dont j'ai des échos, qu'ils soient ou non traditionnalistes et qu'ils soient des différentes tendances traditionnalistes, la réception de ce numéro est particulièrement bonne. Ça semble indiquer que nous avons fait un numéro équilibré.
Équilibré et bien documenté. C'est un bon travail. Alors je vous le dis très sincèrement parce que je n'ai pas collaboré du tout à ce dossier. Je trouve que c'est un très bon travail de journaliste. C'était difficile de réussir en 24 pages à peu près de un peu plus de 24 pages de faire un dossier de.
C'est un gros dossier.
Ouais, c'est un gros et un bon dossier.
30,
c'est un bon dossier.
30 pages. 35 pages peut-être sur.
Puis alors comme le magazine en compte 66 sans compter les 4 de couverture, donc il y a encore beaucoup de choses que nos amis auditeurs pourront découvrir. Notamment une très chouette interview de Brigitte Bardot. Moi j'avoue que c'est mon actrice, et pas seulement parce qu'elle était très très belle, elle est encore une jolie femme, enfin elle était quand même très 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 belle. Montant pas du veau, vous n'étiez pas né vous. Mais voilà, et c'est vraiment, vraiment, elle parle, en anglais on dit parler son esprit, c'est-à-dire, et nous, ouvrir son cœur pour parler. Je ne le dis pas en anglais, parce que sans quoi je mette une pièce dans le cochon, je veux pas. Alors voilà, bon, beaucoup de choses très très intéressantes. Alors une interview de Tillinac, bon bah on aime pas Tillinac, enfin ce qu'il dit est intéressant, hein. Moi c'est pas un personnage qui me...
Voilà, on aime ou on n'aime pas, et on le connaissait pas.
Voilà, bah, on le connaît.
Donc,
pas, maintenant on le connaît.
On va entendre plutôt du mal, hein.
Oui.
On a décidé d'aller le voir, ce qui nous semblait plus simple que de nous en tenir à ce qu'on nous en disait.
Mm-hmm.
Et on a été agréablement surpris.
Ah, mais c'est
d'abord,
pas...
par sa liberté de ton.
Oui.
Par ses convictions, droitières, réactionnaires, classiques,
oui.
Mais qu'il affirme sans complexe.
Oui.
Par le fait aussi que, et ça c'est assez amusant, il se dit, ce qu'il est, ami de Chirac depuis des décennies, je n'ose dire ami de 30 ans parce que ça pourrait mal finir.
Ça porte malheur.
Donc il fait état de sa profonde amitié avec Jacques Chirac, tout en disant Jacques Chirac n'a aucune adhérence idéologique.
C'est pas faux, hein.
Oui, c'est pas faux.
Point de vue, c'est pas faux.
Nous cessons de le répéter, mais venant de quelqu'un qui est aussi intime que lui, j'achète, quoi. Voilà.
Bon, ça, il n'y a peut-être pas besoin d'interview pour le savoir. Moi, Chirac, on peut dire beaucoup de choses sur lui, mais enfin, ça, c'est pas quelqu'un qui est attaché à une doctrine particulière.
Mais ce qui nous a plu, c'est que cela soit dit par l'un de ses intimes.
C'est mieux. Ça donne de la crédibilité à ce qu'on pourra dire après. Bruno Larobière, merci beaucoup. Donc, j'invite nos amis auditeurs qui le souhaiteraient d'abord à découvrir Le Choc du Mois, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est une nouvelle série, on en est au numéro 5, la nouvelle série d'un très vieux mensuel, enfin un ancien mensuel, qui avait eu une grande utilité il y a quoi maintenant, ça fait quoi,
80,
ben voilà, 15 ans, hein.
90.
Tout ça ne nous rajeunit pas, hein. Bon, Enfin, vous, non, parce que vous ne vieillissez pas, mais moi, ça ne me rajeunit pas. Alors, donc, on peut trouver ce numéro 5 en kiosque, tout simplement. Je vais demander le choc du mois.
Le choc du mois.
Ajoutez bien le mois derrière. Ça vous coûtera 6,50 € dans le kiosque. À défaut, si vous souhaitez, si vous avez été convaincu par l'argumentation de Bruno Larubière et par les encouragements que je viens de donner à ce numéro, si vous souhaitez en commander 3 tout de suite pour distribuer autour de vous, eh bien, ça vous en coûtera 12 € franco de port. Il vous suffit d'envoyer un chèque de 12 € à retourner à SACEM. Alors, SACEM, c'est pas pour le contrôle des musiques sur les radios, hein. C'est SACEM, 51 boulevard Garibaldi, 75 015, Paris.
C'est exactement ça.
Eh bien, écoutez, nous avons été enchantés de vous avoir au téléphone, mon cher Bruno.
Tous les lecteurs pourront également découvrir un ensemble sur les gardes suisses.
Oui, c'est gentil.
Bon, ah ben oui, mais il faut le dire quand même.
Oui, non, c'est vrai, en plus, j'ai collaboré là-dessus.
Les gardes suisses meurent, mais ne se rend pas.
Mais c'est joli, oui. Ne titrez pas de moi, mais... non, j'ai souhaité...
Bon, mais il y a 3 pages qui sont Daniel.
Voilà, ouais. Bon, c'était bien. Pourquoi on a fait ce... j'en profite
dans l'armée française et à la garde suisse pontificale.
Voilà, parce que vous me tendez la perche, je veux dire, pourquoi on a eu l'idée de faire cela, c'est parce que, bon, c'est au moment de la sortie du film Indigène. Et donc c'était quand même intéressant de montrer que il n'y avait pas que des noms français entre guillemets originaires d'Afrique du Nord et entre 40 et 45 un peu plus d'ailleurs, parce que certains ont servi aussi au Vietnam, enfin en Indochine à l'époque, qui ont servi la France. Il y a eu beaucoup d'armées étrangères qui ont servi les armées de la France, ou les différents drapeaux sous lesquels elles se sont battues, et notamment quand même les Suisses, parce que on le dit dans le papier, c'est quand même surprenant. En France, c'est quand même 1 million de Suisses qui ont été engagés dans l'armée française en 5 siècles. C'est quand même pas mal, 1 million.
Et 500 000 Suisses, vous me l'avez appris,
oui.
Morts.
Qui ne sont pas rentrés chez eux, oui.
Sous les couleurs de la France.
Oui, oui. Les différentes couleurs de la France, hein, parce qu'ils ont continué, même sous l'Empire et un peu plus tard, etc. Ça valait la peine de donner un petit coup de chapeau, surtout qu'ils ont une attitude au moment de la Révolution française, dont nous allons tout bientôt parler avec notre ami Rénal Sécher, qui vient d'arriver. J'en suis très très content. Ils ont une attitude d'une grande dignité, c'est vraiment très très honorable, et ils l'ont été aussi au service du Saint-Siège depuis un peu moins longtemps. Il faut le dire quand même, puisqu'on fête cette année que le 5e centenaire, alors que chez nous ils servent depuis 6 siècles, et au moins grand nombre. Mais ils ont aussi pris pas mal de coups, hein. Ils ont eu aussi beaucoup de morts. Alors on a un double comme ça, une espèce de double portrait, les Suisses au service de la France et les Suisses au service de l'Église catholique. Et tout ça nous fait que nous sommes toujours catholiques et français. Voilà. Merci cher Bruno.
Merci Daniel.
Bon courage pour le numéro 6. J'espère que vous nous concoctez quelque chose de très intéressant, puis que vous aurez l'occasion d'en redire un petit mot si que le numéro sera sorti en kiosque.
Très volontiers.
Eh bien, que Dieu vous garde, mon cher Bruno. À bientôt.
À bientôt. Bon,
voilà, donc, c'était Bruno Larubière, rédacteur en chef du Choc du mois. L'adresse est SACEM, SACE2M, 51 boulevard Garibaldi, 75 015, Paris. Le numéro 5 contient donc un dossier fort intéressant, comment peut-on être catho, et en une trentaine de pages, apporte vraiment beaucoup de bonnes informations sur ce sujet. Alors, j'avais...
Oui. Excusez-moi, l'adresse, un auditeur vous signale que l'adresse donnée sur le site soutenonslepape.com est introuvable.
Alors, il faut...
Alors, moi, je n'y avais pas noté comme ça, j'avais noté tout à l'heure quand vous avez épelé.
Oui.
En soulignant ma lenteur, soutenons le pape. Point. Moi j'ai noté O-H-A-U-T E-F-O-R-T.
Non.
C'est bien E-T.
Non, O-E-F-O-R.
C'est bien O-E-F-O-R.
Oui, c'est comme le
O-E-F-O-R.
E-E-T.
Donc l'auditeur l'a bien fait, mais
il n'est pas nécessaire de faire les 3 W habituels. Hein. Dès que apparaît la séquence HTTP, etc., hop, il suffit de faire ça. On le trouve, parce que moi je suis allé déjà voir un peu, c'est assez rigolo. Alors, j'avais salué l'arrivée tout à l'heure de notre ami Ucarly, mais je salue l'arrivée dans le studio de Rénal Sécher. Bonsoir mon cher Rénal. Vous avez été pris par les embouteillages, vous qui êtes provincial, mais point habitué à Paris, c'est ça?
Non, c'est une petite histoire. J'étais garé ma voiture chez Madame de Catelino.
Très bien.
Sud, et je tiens à remercier pour le retard que je lui ai occasionné, parce que effectivement j'étais pris dans les embouteillages, et à moins dit j'étais à Lésia, puis je suis là maintenant.
Voilà, de toute façon l'essentiel, vous allez, ne vous inquiétez pas, on a quand même meublé cette petite demi-heure que nous venons de passer ensemble Alors, nous allons parler maintenant, messieurs, de vos deux livres. Alors, je rappelle que, bon, Reynald Secher est historien, écrivain, éditeur, on le connaît bien sur Radio Courtoisie et ailleurs, pas seulement sur Radio Courtoisie. Et il a fait paraître, curieusement d'ailleurs, au mois d'août, hein, ce qui est pas, on pense que c'est pas toujours une très très bonne date pour faire paraître des livres, aux éditions Perrin, une réédition de son ouvrage La Vendée vengée, sous-titré Le génocide franco-français, dont l'édition originale que je possède avait été publié en 1986, voilà 20 ans. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, notre ami Hugues Kerali vient de faire paraître, c'était cet été aussi, je crois, vers le mois de juin, le mois de...
Oui, en juin.
En juin, parlez bien près du micro, messieurs. Aux éditions de L'Homme Nouveau, une édition alors revue, complétée, augmentée de sa véritable histoire des Christéros, qui était parue il y a également 20 ans, et dont je possède l'exemplaire, je ne l'ai pas porté soin parce que j'en ai un ras-le-bol de transporter des kilos de livres, chez Dominique Martin Morin, voilà. C'est un premier éditeur. Et là, maintenant, cette audition de L'Homme Nouveau. Alors, pourquoi j'ai eu l'idée de vous inviter tous les deux ensemble? C'est parce que, d'abord, c'est amusant que cette année voit la réédition à 20 ans de l'histoire de deux livres, sans doute de nature différentes, mais qui ont un point commun, à part le fait d'être, d'avoir 20 ans, ce qui est quand même très très beau, de profiter d'une réédition et de fonctionner très bien, puisque je crois que le premier tirage de La Vendée vengée a été épuisé, que Perrin a refait un tirage, et de même, La véritable histoire des Christéros, le premier tirage a été épuisé et l'éditeur refait un tirage. Ça veut dire qu'il y a quand même une demande sur deux livres dont on pensait qu'ils avaient peut-être... pensaient qu'ils avaient épuisé leur marché. Mais il se trouve que non. Il se trouve qu'il y a des gens qui ne l'ont pas lu.
Ils avaient 20 ans d'avance, comme cite, explique très bien l'homme nouveau à propos du livre de Reynald Secher. Ils avaient 20 ans d'avance tous les deux. C'est pas bon d'avoir de l'avancée. Quand Bernard-Henri Lévy commence sa carrière de philosophe politique en se lançant dans l'anticommunisme, mais plus de 20-25 ans après nous-mêmes, il réussit très bien. En fait, c'est pas toujours bon d'avoir raison trop tôt. C'est vrai que sur l'histoire des Christéros, c'est peut-être, sur le génocide vendéen, c'est plus facile aujourd'hui, l'écoute est plus forte qu'il y a 20 ans. Donc en fait, nous sommes des pionniers, tous les deux, avec la même avance en tout cas sur ce sujet-là, et il faut pas le regretter. Mais l'avance n'est pas toujours bonne à prendre. Parfois, il faut laisser mûrir, il faut attendre que ce soit prêt, mais nous avons certainement, tous les deux, contribué aussi à ce que ces sujets soient devenus possibles aujourd'hui. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois le cardinal Ratzinger, à l'époque où j'ai tourné le film sur Jean-Paul II, nous avons parlé de ce sujet-là. Je suis sûr que ça n'est pas indifférent par rapport aux canonisations, béatifications qui ont été engagées ensuite par Jean-Paul II et par lui-même.
Je vais vous interrompre une petite seconde et après nous allons pouvoir discuter avec l'un et l'autre ou l'un avec les autres ou les uns les autres ensemble sur ce livre. Mais je voulais, puisqu'il s'agit en fait d'un même thème. Ce sont deux insurrections à 150 ans de distance, deux insurrections de la conscience, de soulèvement de la liberté, de l'expression de la foi contre des régimes qui sont des régimes totalitaires, quoi, des régimes dictatoriaux et totalitaires, même on peut dire dans les deux cas. Mais avant, nous avons un message à faire passer à nos auditeurs. Vous savez que tous les ans, nous avons la fête de la langue française, qui a été donc imaginée par Jean Ferré, avec un prix qui était décerné une fois l'an, et cette fête de langue française se manifeste en fait par un grand déjeuner qui réunit le dimanche le plus proche de la date anniversaire de la fondation de la radio tous nos amis parisiens, franciliens, parfois même nos amis de province qui peuvent venir pour cette manifestation d'un déjeuner extrêmement sympathique avec beaucoup de patrons d'émission qui sont là, et ça nous donne l'occasion de bavarder et surtout de remettre le prix qui se cette année, je pense, faillira nécessairement pour l'œuvre accomplie à Jean Ferré. Enfin, ça tombe absolument sous le sens. Mais donc, ce sera un peu formel, cette élection. Mais voilà, ce sera encore un moment de manifester notre unité, notre solidarité, surtout notre reconnaissance pour notre ancien directeur. Et à ce moment-là, nous allons, et pour cette occasion particulière, nous allons écouter un message préparé par nos techniciens.
Le 12 novembre, nous célébrerons le 19e anniversaire de Radio Courtoisie. Nous fêterons ensemble la langue française. Dimanche 12 novembre, si vous êtes adhérent de notre association, venez déjeuner avec nous à la Maison de la Mutualité. Nous élirons le lauréat du prix Daudet. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 50 euros par couvert à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Au dimanche 12 novembre, à midi, pour déjeuner ensemble à la Mutualité et décerner le prix Daudet 2006, 19e anniversaire de Radio Courtoisie.
Nous revoilà avec les mêmes, donc Hugues Kerali pour La véritable histoire des Christeros et notre ami Rénal Secher, enfin Kerali tout c'est un ami, et notre bon camarade Rénal Secher pour L'Avant des Vengés, le génocide franco-français. Rénal Secher, vous avez quand même beaucoup de choses. Quand vous avez publié ce livre, qui est en fait le fruit d'une thèse extrêmement fouillée, que vous avez fait sous la direction de professeurs prestigieux, vous avez, il faut le dire, ruiné votre carrière universitaire. Du jour où ce livre est sorti, on peut dire que cette carrière qui s'annonçait brillante, et le livre montre cette première thèse, enfin c'est une thèse très agréable, très intéressante à lire, montre que vous aviez une carrière magnifique à faire dans l'université, ça a été fini. Et pourquoi ça a été fini?
Alors, pour commencer, une précision. En fait, c'est ma seconde thèse. C'est ce qu'on appelait à l'époque la thèse d'État. C'est le fruit d'une extrapolation de méthode par rapport à un carottage qui avait été fait sur une commune bretonne, vendéenne, ligérienne, etc.
La chapelle Basse-Mer.
Bon. Et avec ce carottage, au sens scientifique du terme, on avait créé de toutes pièces une méthodologie globale pour essayer d'expliquer le pourquoi, le comment et les bilans. Et ce qui était révolutionnaire là-dedans, c'était non seulement la méthode globale, mais les résultats conséquents que nous avions obtenus. Et je rappelle toujours, c'est un sujet tabou à l'université depuis la Révolution française. Alors les ennuis, c'est la phase négative, parce qu'il y a une phase très positive par rapport à ce livre. Les ennuis, oui, c'est vrai, les ennuis, un jour je raconterai la mécanique, les mécanismes et tout ce qui m'a été fait en l'espace de 20 ans, puisqu'en fait ça a commencé il y a 20 ans. Parce que avec le recul, on peut frémir. Ça commence une semaine avant la soutenance par un cambriolage. C'est quelque chose, j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion. C'est un choc dans ma vie, le cambriolage de mon appartement où on m'a volé mes thèses. Et ce qui fait que je n'avais plus de quoi, j'avais plus la matière pour soutenir ce travail à la Sorbonne. On m'avait volé d'ailleurs que cela. Et lorsque j'avais demandé un double à Pierre Chenu, il m'avait interrogé sur le pourquoi. Et j'avais expliqué, et là il m'avait demandé si je voulais réellement soutenir ma thèse, parce que je prenais des risques qui pour lui étaient conséquents. Et à l'époque j'étais tout jeune, vous savez, donc je ne me suis pas tellement posé de questions, il m'a envoyé le double, j'ai pu soutenir tranquillement ma thèse. Sinon que... Le lendemain, j'ai eu un appel téléphonique, je raconterai ça très précisément un jour, et j'ai eu une entrevue avec une personne anonyme censée représenter le rectorat, le ministère, qui m'a proposé une somme conséquente pour ne pas soutenir ma thèse et un poste à l'université. Et comme j'ai rigolé et j'ai refusé, il a été très précis en la matière en disant « Sachez qu'à partir de ce jour-ci, jamais vous n'aurez la paix et jamais vous n'aurez votre poste à l'université. » Et heureusement que j'avais porté plainte à l'époque, parce qu'on peut dire « Mais non, c'est pas possible, c'est énorme. » Et Pierre Chenu m'avait demandé d'aller porter plainte, ce que j'avais fait. Et on a la courante de cette plainte. Et puis après, bon, j'ai dû démissionner, et puis vous connaissez l'histoire. Alors il y a une phase...
Non, mais nos auditeurs la connaissent pas, c'est toujours intéressant à raconter. C'est-à-dire que pour un livre qui est encore vivant, ce n'est pas un... Je précise pour nos auditeurs, ce n'est pas un pamphlet. C'est un travail scientifique, fait sur la base de découvertes mais inouïes que Rénal Secher a fait. Donc en regardant, en fait, vous étiez parti de ce qu'on appelait les registres les registres paroissiaux.
De l'abbé Robin, voilà, directeur Pierre-Marie Robin,
recteur de la chapelle Basse-Mer. Vous qu'il y avait, alors, dans un registre paroissiaux, on enregistrait les naissances, les baptêmes, les mariages et les obsèques. Et là, vous êtes aperçu de quoi
Comment dire, c'était quelque chose de très impressionnant. C'est-à-dire que j'arrive à la mairie de La Chapelle-Basse-Mer pour essayer de voir s'il y avait une liste des gens qui étaient morts à La Chapelle-Basse-Mer sous la Révolution. Et en fouillant dans ces registres, je tombe sur plusieurs liasses non reliées, intitulées « Registre du recteur Pierre-Marie Robin ». Je commence à ouvrir et là je vois massacre, 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 massacre et je suis impressionné parce que tout est très bien décrit. Non seulement les tueries, les massacres proprement dits, mais aussi les âges, les sexes, les lieux, etc., etc. Et c'est très oppressant, c'est très lourd. Et je me souviens que lorsque j'ai commencé à ouvrir ces manuscrits, au bout de quelques pages... j'en parle encore vraiment avec beaucoup d'émotion. J'ai eu les larmes qui me sont venues aux yeux. J'ai fermé la chose et je dis demain. Et j'ai mis plusieurs jours quand je suis rentré dans ma famille. J'ai raconté ça à ma grand-mère. Elle me dit mais tu ne savais pas. Et c'est vrai que je ne savais pas. Et c'est une chose de savoir qu'il y a eu quelques massacres ici et là. C'est autre chose de lire les noms. Puis après, j'ai découvert, bien entendu, un certain nombre de documents de même nature. Et on pense toujours au Luc sur Boulogne. Alors, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, au-delà, on était dans un contexte très spécifique en 1985. Le gouvernement français, socialiste, se préparait à commémorer avec faste le bicentenaire de la Révolution française. Et à l'époque, ce que nous ne savions pas, c'est le recul de l'histoire qui nous fait prendre conscience de l'énormité du travail accompli par rapport à la Vendée. Nous ne savions pas que ce travail risquait de troubler ces festivités. Et c'est vrai, c'était le cas. Et je comprends parfaitement les précautions qu'ont pris les contemporains à l'époque pour empêcher l'apparition de tel travail. Mais ceci dit, j'ai d'autres exemples de cette nature et j'espère qu'un jour un historien se penchera sur le contexte et toutes les manipulations qu'il y a eu par rapport à ces travaux.
Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que c'est que cette insurrection vendéenne, dans quelles conditions elle se manifeste. Elle se manifeste tard, en fin de compte. C'est pas le 14 juillet 89 que les Vendéens prennent les faux pour chasser les sans-culottes qui n'existaient d'ailleurs pas encore le 14 juillet 1789.
Rien n'est spécifique en Vendée. Ce qui se passe en Vendée se passe partout, de la même manière en France. C'est-à-dire que le soulèvement, les Vendéens, les causes, etc., on les retrouve sous des formes différentes, à nuancer, un peu partout en France. Lorsque on déclare la guerre, la France déclare la guerre à l'étranger, lorsqu'il y a la réquisition des 300 000 hommes, c'est 60, voire 70% de la population française qui s'insurge contre la dictature d'Ecta. Alors la spécificité de la Vendée se résume, se concentre dans l'immensité de son territoire, 770 communes réparties sur 10 000 km², qui concernent 815 000 habitants, et où il n'y a pas de force de répression. C'est-à-dire qu'on a eu des insurrections en Bretagne, par exemple, mais il y a un tel maillage urbain, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une ville, il y a une force répressive, c'est-à-dire que la campagne, immédiatement, est réprimée. En Vendée, rien que tel. Parce qu'il n'y a absolument aucune grosse ville, sinon aux périphéries, c'est-à-dire Paimboeuf-Saint-Nazaire, Nantes, Angers, les Sables-d'Olonne, Niort. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Et ça, c'est la grande spécificité de la Vendée. Et la Vendée insurgée, bon, il y en a un peu partout. La Vendée, dont l'insurrection réussit, c'est ça qui fait l'histoire de la Vendée. La Vendée commence à s'imposer par cette immensité territoriale.
Mais l'insurrection elle-même, elle n'est pas seulement liée à la levée en masse. Elle est liée aussi au fait qu'on rentre dans une phase de la Révolution française où l'antichristianisme n'est plus seulement souterrain ou susurré. Il est évident, il est massif. On est dans un État qui est parfaitement antichrétien et qui veut interdire le culte qui proscrit. Il y a eu la constitution civile du clergé un peu avant. Il y a la proscription des prêtres qui refusent de prêter le serment à la Constitution. Il y a des expulsions et puis les arrestations arbitraires et puis les massacres de septembre. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent.
C'est indiscutablement vrai, mais tout ceci se passe en 1790. Et là, nous nous situons en mars 1793. Et il y a un mouvement que l'on voit à travers toute la France, c'est-à-dire que lorsque on commence à réprimer, lorsque le clergé commence à se mettre hors la loi, donc il doit subir les sanctions, c'est-à-dire la déportation, l'exécution, l'encasernement. La spécificité, c'est qu'ils viennent chercher, je reprends les mots de l'époque, la paix et la sécurité au sein de la famille. Et en fait, ce sont ces 3 ans qui vont faire que les gens vont prendre conscience que le système qui est en train de se mettre en place est un système liberticide. Et l'expression visible que l'on vit au quotidien, c'est bien entendu l'affaire religieuse. Je dis l'affaire religieuse, c'est-à-dire c'est non seulement le culte, mais c'est aussi la répression par rapport au clergé, aussi bien régulier que séculier. Ça, c'est la matière visible, palpable, que l'on vit tous les jours. Mais au-delà de ça, ils se rendent compte que c'est la notion de liberté qui est fondamentalement remise en question. Et lorsqu'ils s'insurgent, c'est au nom de cette liberté, garantie traditionnellement par le roi père de la patrie, et il faut se battre pour cela, et on se donne les moyens de se battre pour cela.
Alors le sous-titre de votre livre, c'est peut-être ça qui a posé un problème énorme, c'est l'expression très forte que vous avez utilisée, qui est quelque chose qui a effectivement ému beaucoup de monde, le génocide franco-français. Est-ce qu'aujourd'hui, avec 20 ans de distance, vous maintenez ce mot, puis il est figure sur la couverture, mais on aurait pu abuser de votre gentillesse. Est-ce que vous maintenez ce mot, est-ce que vous le modifiez, ou est-ce que... voilà, quelle est votre position là-dessus?
Vous avez une définition très juridique qui a été énoncée à Nuremberg. On appelle crime de génocide la conception ou la réalisation partielle ou totale ou la complicité dans la réalisation partielle ou totale de l'extermination d'un groupe humain de type ethnique, racial ou religieux. En Vendée, nous avons la caractéristique globale de ce génocide. Nous avons 3 génocides. C'est-à-dire, on a bien la conception, on a les lois. On a bien la réalisation partielle, ne serait-ce que la chapelle Basse-Mère. On a 808 victimes sur 3500. Il y a bien une complicité. Donc, là, nous avons vraiment un crime, une addition de crimes de génocide. Avec une spécificité qui choque toujours lorsque je l'énonce, c'est le seul génocide légal de l'histoire de l'humanité. Je défie quiconque de me retrouver dans notre histoire mondiale un génocide qui soit caractérisé par le vote de peuple souverain. On n'a aucun autre exemple de cette nature.
Chez les nazis, c'était une chose administrative et administrative. Secrète. Chez les Turcs,
même
aussi,
chose.
C'était une chose absolument...
chez les communistes...
En cabinet, ça c'est absolument certain, mais il n'y a pas eu de loi, il n'y a pas eu un vote au Parlement pour exterminer les Arméniens, ou les Juifs, ou les Tziganes, ou les choses. Alors que là...
C'est une addition de lois, en fait. Il y en a 3. Vous avez le 1er août, la loi d'anéantissement. Vous avez la deuxième loi, c'est la loi du 1er octobre 1793, c'est la loi d'extermination. Alors, on parle des brigands, et les officiers supérieurs, notamment les généraux, vont demander une définition par rapport à ce nom de brigand. Et on va leur dire, tous les habitants résidant en Vendée, bleus et blancs confondus, doivent être éliminés, et de préférence les femmes sillons producteurs et les enfants car en passe de devenir futurs brigands. Tout ça, c'est très précis. Et donc, ces lois ont été publiées au journal officiel de l'époque, et lorsque l'on ne me croit pas, je dis simplement allez vérifier, allez lire le journal officiel de l'époque, le Moniteur, vous avez tout à l'intérieur.
Est-ce qu'on peut extrapoler, on sait à peu près le nombre de personnes qui ont été victimes de ce génocide en Vendée?
Oui, alors
génocide d'ailleurs qui parfois aussi impliquait les bleus, hein, tout le monde passait à la casserole.
Tout le monde y passe. Le seul fait de résider en Vendée vous conduisait à la mort. Alors, à l'heure actuelle, on sait qu'au minimum, sur une population de 815 000 habitants, c'est 117 000 personnes qui sont concernées par l'extermination et la guerre. Et on peut approfondir, comme on l'a fait dans les paroisses ou les communes où on a les registres, comme au Luxembourg, etc., on peut approfondir le travail. On se rend compte que 70 à 80% des gens exterminés du fait du génocide sont les femmes, les enfants et les vieillards. Mais on peut aller au-delà, puisque grâce à Napoléon Ier, grâce à ses lois d'indemnisation de 1808, 1811 et 1812, nous avons une approche très précise de la destruction de l'habitat, puisque nous avons l'intégralité de l'habitat détruit dans le département des Deux-Sèvres, et comme nous avons le cadastre, donc on a le rapport entre ces deux chiffres, nous avons l'intégralité des destructions du département de Loire-Atlantique inférieure à l'époque, à moins une commune, Valette, et nous avons à peu près le tiers de la Vendée, le Maine-et-Loire, n'ayant pas été indemnisé, puisque l'indemnisation avait été prévue pour 1815-1816, et comme l'Empire est tombé en 1814, et qu'en 1815, lors des 100 jours, Napoléon avait d'autres préoccupations, et il n'a pas indemnisé le département. Et pour l'historien, c'est vraiment regrettable, car on aurait eu, en fait, un bilan global des guerres de Vendée.
Et on ne l'a pas.
Bon. On ne l'a pas.
Voilà, c'est curieux quand même, ce régime totalitaire qui extermine une partie de la population d'un État au nom des idéaux de la liberté, au nom de l'humanité, hein, cette humanité dont ils avaient la bouche pleine, ce refus de la liberté de conscience au nom de la liberté avec un grand L, c'est assez troublant. Mais c'est une situation troublante qui... Vous voulez rajouter un petit chose? Je vais faire une transition.
Oui,
mais voilà,
Kerali, en regardant le titre, me demandait si on n'avait pas fait de faute à Vendée venger, parce qu'il n'y a pas de E à Vendée. Ça fait partie de la troisième loi, puisque c'est une addition d'axiomes. Comme les Vendéens ne peuvent pas être des Français, puisqu'ils se révoltent contre un régime bon et généreux...
D'abord, ce ne sont pas des êtres humains.
Donc, ils ne peuvent pas être des êtres humains. S'ils ne sont pas des êtres humains, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir de territoire. Si le territoire n'existe plus, il n'y a plus de nom à ce territoire. Donc, on débaptise le département Vendée et on va lui redonner un autre nom. Ça va être département Vengé, non pas pour se venger de la Vendée, mais pour expliciter la politique mise en œuvre par la Convention, c'est-à-dire de repeupler la Vendée après l'avoir exterminée. Et n'oubliez pas, pour comprendre ces mécanismes qui peuvent paraître ahurissants, que le bourreau, à l'époque, s'appelait le vengeur de la République. C'est-à-dire que non seulement il élimine, mais il régénère par le sang de l'extermination. Vous voyez,
ce territoire était vengé de ses occupants malpropres grâce à cette révolution que le monde entier, paraît-il, nous a envie. Alors on va donner la parole avant de passer la parole à notre ami Kerali, on va passer la parole à Victoria.
Oui, c'est un auditeur remarque. On oublie souvent que des Bretons, avec le marquis de la Rouairie et...
Oui, allez-y.
Avec le marquis de la Rouairie et Jean Cottereau, se sont soulevés dès 1789. La Rouairie a été tuée dès 1789. À quand un ouvrage sur la chouannerie bretonne?
Alors cet ouvrage existe. Je peux que conseiller de lire le livre remarquable de Bernet sur la matière qui est paru chez Perrin, qui s'appelle La chouannerie. Cet auditeur a raison. Celui qui met en œuvre la chouannerie, à mon avis, c'est pas Cottereau, c'est la Rouairie, et ce très tôt, puisqu'il commence à comprendre les mécanismes liberticides de la Révolution dès 1789. Mais n'oublions pas qu'il a combattu longuement aux États-Unis d'Amérique du Nord et qu'il a imbibé d'idées anglo-saxonnes et que notamment, sans aucun doute, il a lu le livre de Burke sur la réflexion sur la Révolution française.
Vous avez une question personnelle pour vous. Est-ce que les persécutions qui vous visaient, vous et vos enfants, ont cessé?
Non. Je vais pas trop m'étaler là-dessus. 20 ans après, je subis toujours des choses qui sont surprenantes. Bon, ben, c'est comme ça, je l'accepte. Mais un jour, j'écrirai globalement je décrirai globalement ce qui m'est arrivé parce que c'est vraiment stupéfiant.
faites-le vite et parlez-en beaucoup. Plus on en parle, notamment à la radio, plus ça protège.
On a les documents.
Voilà. Alors, je disais donc...
Pardon,
oui,
Daniel.
Merci beaucoup de m'interrompre, je n'arriverai pas à faire la transition.
Non, j'ai encore d'autres questions. Quelle était la troisième loi après anéantissement et extermination d'un peuple?
C'est la loi du 7 octobre, celle dont nous venons de parler sur le fait qu'on débaptise la Vendée pour l'appeler département Vendée.
Est-ce que on peut finir les messages avant que vous fassiez la transition?
Alors bon, vite, s'il vous
Alors,
plaît.
Alors, ça reprend ce qu'on a dit avant. Pour répondre à l'évêque qui a peur du birituelisme,
ah, oui, on revient sur le
Paul
premier.
VI, bah oui, et Saint-Pie V, je lui fais remarquer que dans l'Église catholique, il y a officiellement 35 rites différents de la messe, voire l'Internet. Pourquoi nos monseigneurs en veulent-ils autant à la messe de Saint-Pie V?
Ah bah, posez la question, j'y réponds, cher auditeur. Voyons, ça tombe sur le temps. Non, là, on va arrêter sur la question de la messe, qu'on y reviendra, hein. Mais là, on va arrêter sur cette question-là, parce qu'on a, et le temps va nous manquer. Donc, je suis désolé pour les auditeurs, mais là, ça y est, c'est fini. Cette séquence est passée. Alors, je rappelle que, et Rénald de Sécher, et Hugues Carali, dédicaceront le premier, la Vendée Vengée, sans E au bout de Vengée. Enfin, sans E, oui, il y a un accent aigu, mais après pas de. Et, Hugues Carali, la véritable histoire des Christéros, samedi prochain, 28 octobre, de 15h à 17h, parce que là je vois 13h30.
Oui, 13h30, c'est
13h30,
pour moi.
13h30 pour... c'est très tôt, vous avez commencé à bosser très tôt, voilà.
Oui, mais je dois retourner en Bretagne.
Ah bon, alors donc c'est pour une œuvre sociale, on n'en discute pas. Donc de 13h30 à 17h pour Rénal Sécher, de 15h à 18h30 pour Kerali. Donc si vous arrivez vers 15h, vous allez avoir les deux, ça vous fout un paquet cadeau pour les deux. à la librairie, donc France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Je vous conseille d'aller les voir et de vous faire dédicacer ces deux formidables ouvrages. Hugues Carali, je disais tout à l'heure, donc pour faire une transition, puis vous avez vu que je n'arrive pas à faire mon émission, ça m'échappe totalement, que ce régime qui avait plein la bouche de l'humanité a exterminé de façon inhumaine une partie de sa population, que ce régime qui avait plein la bouche le concept de liberté a en quelque sorte interdit toute liberté d'expression, seulement aux Vendéens, mais aux Bretons, aux Lyonnais, aux Aquitains, et à tant d'autres. Est-ce que ce régime n'a pas quelque chose à voir avec celui qui s'installe au Mexique au moment où va se déclencher le soulèvement Christéros?
Bien sûr, nous avons inventé en 89 le modèle de l'État terroriste. Et d'ailleurs, la définition qui a été donnée tout à l'heure en se référant au procès de Gutenberg du génocide est tout à fait juste. Mais il faut quand même rappeler, c'est une invention française. C'est avec la Vendée et... Vraiment, là aussi, moi je défie quiconque de me faire la démonstration historique contraire, qu'on commence à exterminer une population en raison de sa foi ou de sa race ou de sa culture comme étrangère à un être national et donc devant être supprimée.
Et alors les gens qui arrivent... Et si vous permettez, oui, il n'y a pas de contrition possible.
Il n'y a pas de... Oui, exact. Alors ce modèle est inventé par la France et il est repris par les bolcheviks, enfin cette coalition de bolcheviks et de francs-maçons qui prennent le pouvoir au Mexique à partir des années 1910. C'est en 1911 qu'ils prennent pied, c'est en 1917 que s'établit la constitution, en même temps que la révolution d'octobre d'ailleurs, la constitution franc-maçonne et bolchevique des États-Unis du Mexique, et c'est jusqu'en 1926 que le peuple mexicain dans son ensemble et dans toutes ses strates sociales, parce que le Mexique est catholique, c'est le plus grand pays catholique du monde par le nombre et la proportion de baptisés, et que le Mexique va résister pacifiquement, protester, conserver sa religion, mais ils ne prendront les armes qu'à partir d'un événement qui nous rapproche encore de l'histoire de Vendée, qui est celui de l'assermentation des prêtres. Car c'est sur le modèle français, expulsion des congrégations religieuses, assermentation des prêtres, qui doivent prêter serment de servir la République, enfin les États-Unis du Mexique, donc l'antichristianisme en acte, que certains, ou une centaine, pas plus, une centaine de prêtres, je ne sais pas si on peut faire ici un parallèle complet avec l'histoire de la Vendée, parce qu'en Vendée, ils ont été plus nombreux, une centaine de prêtres réfractaires, au sens propre, refusant de prêter serment, vont se réfugier dans les familles, dans les pueblos, dans les villages, et demander la protection des paysans. quelquefois du maire, mais c'était plus difficile en ville, pour la même raison qui a été exposée par Radal Secher. Là, il y avait des gardisons de l'armée fédérale, et donc on s'est réfugié dans les montagnes. Et il y a un parallèle à faire entre ces prêtres qui, pauvrement habillés, qui sont à cheval avec les paysans pour leur offrir encore les sacrements de la religion. La différence la plus essentielle, je crois, qui est en même temps une chose qui les unit profondément entre les Vendéens et les Cristeros, c'est que les Cristeros représentent à l'origine et dans tout le développement de l'insurrection qui va durer 3 ans, qui va contrôler les 3/4 du pays, une insurrection de la foi. Je crois que la motivation est 100% spirituelle. C'est quand les évêques mexicains, pour des raisons qui nous échappent encore, mais qui sont finalement assez courageuses, décident la suspension du culte public, vous rendez impossible l'exercice normal de la religion catholique, nous suspendons le culte public dans toutes les églises du diocèse, c'est quand le Mexicain, persécuté par son gouvernement depuis très nombreuses années, s'aperçoit qu'on le prive des sacrements de sa religion, qu'il va prendre les armes. Il va faire comme les Vendéens qui saisissent leur faux, il saisit sa machette, il la met entre les dents, il saute sur le premier cheval venu et il fonce sus à l'ennemi. Au début dans un désordre imprescriptible, puis après dans une organisation de plus en plus savante de guerre de guérilla, puis de régiments entiers, souvent des régiments à cheval, qui vont monter au feu et défaire les fédéraux absolument partout. L'armée fédérale se retrouve à peu près dans la situation des soviétiques en Afghanistan, ou peut-être de celle de l'armée américaine aujourd'hui en Irak. On tient la capitale, on tient encore quelques routes essentielles, mais partout ailleurs, le pouvoir est aux armées chrétiennes. Alors, catholique et royal chez les Vendéens, en la personne du Dieu et le roi, bien sûr, catholique et royal chez les Cristeros, là aussi c'est très émouvant, en la personne du Christ-Roi, qui vient d'être proclamé roi des nations par le pape Pion, une année avant l'insurrection. Oui. Voilà, mais le parallèle pourrait être mené à l'infini parce que les Cristeros se souviennent des Vendéens, ils sont très cultivés, il y a toutes les classes sociales dans l'insurrection. Ils ont souvent le cœur sur la poitrine, ils sont naturellement bardés de médailles, c'est très courageux dans un pays où le port d'un insigne religieux est puni de mort, très souvent, et ils ont le vieux tromblon, la machette, le vieux fusil de grand-père, et puis petit à petit, ils vont trouver les bons chevaux volés à l'ennemi, les bonnes armes volées à l'ennemi. Et quand l'épiscopat, dans la cruauté absolue de l'interprétation qui sera faite des fameux arreglos avec, entre l'épiscopat et le gouvernement mexicain en 1929, quand l'épiscopat leur dit de déposer les armes, ils vont obéir. Parce qu'ils croient obéir au pape et ils vont avoir la fierté de dire... Tous les chevaux, toutes les armes, toutes les munitions que nous rendons au gouvernement, nous les lui rendons en effet car elles lui ont été volées. Ils se sont organisés de façon extraordinaire. On pense que Mexico serait tombé en 1929 si les Américains, les Nord-Américains, les Gringos, les Yankees, n'avaient pas organisé le blocus, puisque là nous sommes dans un pays protestant, franc-maçon lui aussi largement, ou même quand le président est catholique, il doit se dédouaner de son catholicisme. Et donc,
ce qui arrive rarement quand même, c'est arrivé deux fois.
Oui, c'est arrivé deux fois, mais enfin... Et à chaque fois, le Mexique en a beaucoup souffert parce que les États-Unis, dans une mauvaise analyse géopolitique, n'ont pas voulu d'un grand pays catholique à leur frontière.
Ben, ils ne l'auront pas, mais ils auront beaucoup de catholiques immigrés chez eux, ce qui va transformer le problème.
C'est un phénomène plus récent.
Mais enfin, c'est les États-Unis d'Amérique du Nord qui sont en passe de devenir le plus grand pays catholique.
Ce qui est certain, c'est que l'adage qu'avait donné, je crois, un diplomate américain, pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis. Oui. Et c'est tout à fait vérifié dans cette terrible histoire qui a été interdite d'histoire jusqu'à l'arrivée de Jean Meyer, pas celui qui préface votre livre, mais un maître assistant de l'université de Perpignan qui a fait la première thèse de doctorat en 5 volumes à l'université de Mexico avec d'ailleurs beaucoup de courage parce que c'était très difficile d'enquêter au Mexique à l'époque et qui a recueilli l'essentiel des documents. Moi-même, je n'ai pas fait œuvre d'historien. Simplement, j'ai considéré que dans le travail de Meyer, que j'ai pu lire, puisque l'espagnol est ma langue maternelle, et dans ce que me racontaient les officiers de la Cristiada, puisque à l'époque où j'ai enquêté, ils étaient vivants, c'est le grand avantage de pouvoir enquêter sur une histoire encore vivante, je me suis aperçu que l'interprétation était vraiment trop gauchiste, et que l'union des classes sociales, notamment, dans cette insurrection, était complètement méprisée par le préjugé, disons, 68 ans, d'un maître assistant qui arrive et qui veut que ce soit des paysans qui se révoltent contre les riches. Or, le nombre de martyrs partir, qui appartenaient aux classes sociales supérieures, de jeunes femmes bien élevées, qui ont été violées et fusillées par les fédéraux, et est impressionnant. Des prêtres, bien entendu, les 110 prêtres qui sont passés du côté des Cristeros, puisque des évêques, il n'y en a pas eu, malheureusement, toujours aussi courageux, appartenaient à des milieux élevés. Et puis, l'équivalent de nos jeunesses catholiques françaises, la CJM, l'Association des catholiques, de la jeunesse catholique mexicaine, prend les armes le premier jour. C'est peut-être même qui provoque le déclenchement de l'insurrection. À partir du moment où le gouvernement émet le décret que le port des insignes religieux est interdit, le président fait passer une circulaire dans tout le pays, disant, à partir de ce jour, le port de l'insigne ACJM est devenu obligatoire pour tous les membres de l'association. C'est quand même courageux. Et c'est vrai que ce sont des jeunes gens de 17 ans, de 18 ans, des étudiants, de jeunes maires, et puis d'anciens officiers aussi de l'armée fédérale qui se laissent toucher et convertir même par les Cristeros, qui vont organiser la résistance, rendre les villages et les villes aux catholiques, réouvrir les églises, bien entendu. Tous les combats se terminent par j'en montrerai une malheureuse photo sur la couverture du livre. Quand la ville est reprise, on fait une procession en l'honneur du Saint-Sacrement, on présente les armes au Saint-Sacrement. Enfin, c'est une histoire qui est tout à fait exaltante. Elle est inconnue parce que il y a 7 thèses en 5 volumes. Elle est à l'université de Mexico, mais au Mexique l'histoire est toujours interdite d'histoire, et il y a 2 ouvrages qui ont paru de Jean Meyer aussi, qui recueille beaucoup de témoignages qui sont épuisés depuis fort longtemps. La première édition de ce livre chez Dominique Martin Morin, qui est épuisée, et donc cette réédition aujourd'hui, La véritable histoire des Cristeros, seul ouvrage en langue française, mais qui est plutôt une chronique, si vous voulez, de philosophes et de journalistes chrétiens. J'ai recueilli des choses, j'ai pas cherché à leur donner un autre sens que spirituel, parce que dans les propos des Cristeros, tout est spirituel. On dit, mais les mères parfois protègent les enfants. Il y a l'histoire, je vous la raconte rapidement parce que les histoires disent mieux que l'histoire. Il y a ce petit garçon qui a 11 ans au moment où ça commence et qui dit à sa, ou 12 ans je crois, qui dit à sa mère, il faut que j'y aille, maman, maintenant que le paradis est si bon marché, tu vas pas m'interdire d'y aller. Alors le général commandant les Cristeros du lieu lui dit lui-même, mais mon vieux, moi je ne t'accepte que si ta mère t'accepte. Si ta madre te da permiso, je t'accepte si ta mère te permet. Alors il se confond en explication auprès de sa mère, il explique qu'il sait soigner les chevaux, qu'il sait soigner les hommes, qu'il sait faire chanter les gens,
et surtout,
et puis il écrit au général, mais mon général, vous avez peut-être oublié quelque chose, c'est que je n'ai pas mon pareil dans l'art de faire griller les frijoles, les haricots, et ça c'est quand même, on adore ça au Mexique, et le général se laisse attendrir, la maman aussi, il part. Il va remonter le moral de beaucoup de monde, c'était une guerre extrêmement difficile, et on va l'autoriser à participer à un combat. Il a 14 ans, il s'appelle José Sánchez del Río, il a 14 ans, il est sur une jument, alzane, à côté il y a sur les talons noirs le magnifique général, c'est un combat de cavalerie. On pense que c'est moins dangereux pour lui, il est à côté de son général, très fier, vous rendez compte, 14 ans, les talons du général est fauché par un tir de mitrailleuse lourde, parce que c'était vraiment des régiments de ligne, il tend les rênes, il saute gracieusement de son cheval, tend les rênes de la jument au général, lui dit, votre vie est plus précieuse que la mienne, fuyez. Il se réfugie derrière le cadavre de l'étalon, saisit tous les fusils qui traînent et toutes les cartouchières, et tire jusqu'à la dernière cartouche. Il fera remarquer, avant d'être lui-même assassiné au bord d'une fosse, il fera remarquer au lieutenant qui vient le saisir, mon lieutenant, je vous prie de bien vouloir noter que je ne me suis pas rendu. J'étais à court de munitions, voilà tout. Ça, et il a 14 ans. Il est aujourd'hui béatifié, mais on pourrait en béatifier des centaines de milliers. Le compte est impossible à faire.
Ce qui montre que l'Église peut béatifier aussi des gens qui ont porté le fusil, quand même. Hein, parce que des fois, on dira, bah non, on ne peut pas, parce que
ils sont battus, bien sûr. Mais bien sûr que si, sinon... d'ailleurs, les Cristeros vont finalement servir de parrain, comme les Chouans, à d'autres résistances catholiques dans le monde, et qui vont, sans s'en inspirer, qui vont faire pareil, qui vont prendre la croix, le fusil.
Ce que vous dites, Hugues, là, cette dernière remarque que vous faites, qui rejoint aussi un peu les propos de Reynald, me font penser Alors, pensez, je parlais tout à l'heure de Catineau, moi je pensais à Charette, quand Charette est arrêté, et que le général Bleu qui procède à son arrestation n'est peut-être pas une très très mauvaise personne, en fin de compte, et lui dit, écoutez, regardez, à quoi ça sert tout ça, ouais, vous êtes arrêté, maintenant on va vous fusiller demain, pourquoi avez-vous fait ça, etc., et à quoi ça sert. Et Charette dit, sachez monsieur que rien ne se perd jamais. Rien ne se perd jamais. Eh bien, l'exemple des Vendéens, comme ceux des Christéros, ce sont des exemples qui ne se perdent pas. Mmh. Même si ils ont perdu, du point de vue historique, alors qu'ils étaient, les uns et les autres, gagnants au plan militaire. Je parle sous votre double autorité.
L'épiscopat les a fait perdre. Mmh. Vous m'interrogiez tout à l'heure sur l'épiscopat, j'étais en train de préparer mentalement ce que je voulais dire sur les Christéros.
Je parlais de l'épiscopat.
J'ai pas voulu répondre. Français. Mais l'épiscopat est manipulable, vous savez. En France, ça fait 2 siècles que on négocie le nom de l'évêque. Alors, le Vatican propose un saint, enfin disons un spirituel, la République une canaille, on transige sur un imbécile, bien sûr. Et donc, cette imbécilité cumulée fait que les bureaux de l'épiscopat partout dans le monde, on le voit dans l'histoire des Christéros, les bureaux prennent le pas, naturellement. Sur la personnalité de l'évêque qui n'en a pas et qui n'a pas de consistance intellectuelle et manipule. Et d'ailleurs, dans les arreglos, on voit bien ces 2 ou 3 diplomates américains, chiliens, envoyés du Vatican, qui finissent par faire croire à l'ensemble de l'épiscopat mexicain, parce qu'on en a perverti 2 plus que les autres, que c'est Rome qui demande qu'on dépose les armes. Mais jamais Pie XI n'aurait une seconde accepté qu'on dépose les armes, sachant que derrière, on allait mettre les gens en rang par 3 pour les pendre, parfois leur poignarder le cœur en direct, parce que certains officiers aimaient bien donner la mort eux-mêmes. Il y a eu des pendaisons le long des voies ferrées. Un Christéro par poteau télégraphique, puisque le téléphone et le télégraphe suivaient les voies ferrées, et ça allait du Rio Grande au Michoacán. Enfin, ça a été un massacre épouvantable. On en sait moins sur statistiquement. On voit bien que les Vendées, la guerre de Vendée, d'après les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, c'est tout à fait comparable au génocide organisé par les Khmer Rouges au Cambodge, quoi. En gros, c'est le tiers, quoi. C'est de cet ordre-là. Là, on ne sait pas, parce que c'est interdit. On n'a pas ouvert les fosses. On n'a pas ouvert les archives. L'Église, bien entendu, a honte de cette histoire. Pour le gouvernement, qui est la constitution mexicaine est toujours une constitution anti-catholique, bien que les catholiques aient repris le pouvoir pendant un certain moment, le gouvernement n'a pas ouvert ses archives. L'armée n'a pas ouvert les siennes. Et en fait, on ne sait pas. Peut-être 300 000 morts. On ne sait pas. On sait par exemple que les Christéros, enfin les combats avec les Christéros, ont décimé l'armée fédérale de façon importante. 66 000 morts.
Du côté fédéral.
Du côté fédéral, oui. 66 000 morts du côté fédéral, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est une armée de 200 000 personnes au moment le plus fort. C'est un petit pays. Hein. Il n'y a pas 20 millions d'habitants à l'époque au Mexique. Et en outre, l'armée fédérale, très rapidement, cessera d'engager le combat, puisqu'elle le perd toujours. Sur le terrain des montagnes, le terrain du pays réel, du pays profond, un petit peu comme en Vendée, elle va toujours perdre. D'autant qu'il y a des généraux intéressants comme Gorostieta, qui connaît l'armée fédérale, qui dit, voilà, débrouillez-vous pour n'engager le combat qu'en position de vaincre. Et les Cristeros n'étaient pas du tout de cet avis-là. Eux, au début, ils étaient capables de se précipiter sur l'unique téléphone du village pour rappeler la caserne voisine et dire, on est là. On est là, on va vous faire la peau. Enfin, c'était un enthousiasme formidable. Ou plutôt, on va d'abord essayer de vous convertir. Alors, ce qui est remarquable aussi, c'est un parallèle qu'on peut faire avec les Christéros, c'est qu'ils ont fait beaucoup de prisonniers. Et le témoignage des prisonniers, c'est qu'ils étaient, que c'était vraiment des adversaires chrétiens. C'est-à-dire qu'on ne leur a fait aucun mal, jamais. Ils n'ont jamais volé. Ça, c'est admirable.
C'est bon sang, hein.
Oui, c'est bon sang.
Ils n'ont jamais volé. Quand ils ont eu la tentation de tuer, ben, comme dans l'histoire de Vendée, on leur fait réciter le Notre Père, ils arrêtent.
Le pater cheminier.
Et pourtant, ils ont vu leurs enfants déshabillés, ouais. Ils ont vu des prêtres immasculés. On saisissait les gens pour les traîner derrière la queue d'un cheval au galop sur des champs de maïs fraîchement coupés. entièrement nu, de façon à être écorché vif avant de mourir. Enfin, il y a eu des scènes épouvantables où on réunit tout le village pour crucifier le prêtre sous leurs yeux et pendre les servants autour. Et on prend des photos. Alors c'est très intéressant parce que la photographie en noir et blanc existe et que l'officier est fier de retour à Mexico de pouvoir montrer ses exploits. Donc les choses sont photographiées. Il y a eu une photographie
c'est affreux. Il y a un cahier photo, enfin il est tout absolument, oui. Il y a plusieurs cahiers photo, il y a plusieurs photos, c'est absolument passionnant, mais il y a des choses qui sont insupportables, c'est insupportable.
Alors il y a une photo qui est très émouvante parce que moi je connais l'histoire des trois jeunes femmes qui sont là. On a fusillé devant le mur de la cathédrale de Colima, juste derrière la statue de la Vierge. Ils se sont fait la remarque avant de mourir. On a fusillé trois jeunes militants catholiques justement de l'association catholique de la jeunesse mexicaine, et les compagnes, enfin les jeunes femmes qui sont là le long du mur, il faudra que vous regardiez cette photo si vous achetez le livre, eh bien elles ont été obligées d'assister à l'exécution. Elles vont passer l'après-midi entière sous un soleil de feu pour que la population puisse bien voir ce qu'ont fait des cristeros et de leurs alliés, car les filles se sont beaucoup engagées, oui. Elles fabriquaient les cartouches, elles transportaient les munitions sur les... Et puis surtout, elles s'approchaient des officiers de l'armée fédérale pour obtenir du renseignement. Elles ont été très très bonnes là-dessus. Donc les trois vont être pendues trois fois de suite dans la nuit qui suit, qu'on les réveillait avec des seaux d'eau pour obtenir des aveux qu'elles ne donneront jamais. Elles appartiennent aux brigades féminines Saint-Jeanne d'Arc, car là aussi le Mexique fait référence à la France. Bon, les cristeros ont fini par simplifier, ils les appelleront Brigadas Bonitas, la brigade des jolies femmes, parce qu'elles étaient absolument charmantes, et les voilà. Alors ça c'est tout à fait extraordinaire.
On ne dira pas comment elles ont terminé ces trois années.
Elles ont terminé abominable.
Non, on ne le dit pas. C'est atroce.
Et voilà un prêtre. Ceci est le prêtre. Este es el cura Sedano. Ceci est le prêtre Sedano. Et on a l'impression qu'on est devant le panneau, vous savez, qu'on a mis au-dessus du Christ.
C'est du Christ.
Sur la croix. Voici le roi des Juifs. Là, il y a un prêtre qui était un jésuite qui a été canonisé, Augustine Pro, qui est à genoux. Et on voit que l'officier qui va ordonner le feu au peloton d'exécution se retourne pour voir si les officiels ne le regardent pas trop, parce qu'il est en train de lui glisser un petit papier pour lui dire qu'il lui pardonne. Et c'est très important quand même, parce qu'ils ont beau être dans l'armée fédérale, ils n'ont pas envie d'aller en enfer. C'est compliqué là-bas, parce que les révolutionnaires, beaucoup, aujourd'hui encore en Amérique latine, la seule différence qu'ils ont avec la droite catholique, c'est pas la religion, c'est l'heure à laquelle ils vont à la messe, quoi. Et donc, pour comprendre quelque chose à ce qui se passe dans ce continent, il faut partir des problèmes spirituels et religieux.
Prodige du sacrilège en France et au Mexique.
C'est pour rebondir par rapport à ce que disait Karali, je pense qu'effectivement le génocide vendéen est un génocide matriciel. Il faut bien savoir que tous les grands génocides qui ont eu lieu au XXe siècle trouvent leur source en Vendée. Et on ne le sait pas, on ne le dit pas, il y aurait tout un travail à faire là-dessus. Lénine, l'auteur d'un certain nombre de génocides en Russie, venait passer ses vacances en Vendée, on ne le dit pas. Lorsque on parle d'un certain nombre de dictateurs comme Pol Pot ou Ho Chi Minh, il faut savoir qu'ils ont fait toutes leurs études en France et que leur passion c'était la révolution et c'était l'étude scrupuleuse de la matière vendéenne.
Messieurs, je suis obligé de vous interrompre parce qu'il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission. Deux, trois messages d'auditeurs et ensuite
des annonces. Les dates précises de la période cristéros.
1926-1929.
Ça dure trois ans, de juillet 1926, c'est-à-dire juste dans la foulée de la suspension du culte public, jusqu'en juin 1929, les arreglos entre le gouvernement et l'épiscopat mexicain.
On avait un certain nombre de messages qui disaient « passionnant l'émission ». Bon, je fais les annonces.
Rapidement.
La conférence Saint-Paul du jeudi 26 octobre
conférence
est annulée.
Conférence au centre Saint-Paul, oui.
Centre Saint-Paul, tout le monde connaît. Est reportée au 14 novembre.
Ça commence bien.
Je rappelle, parce qu'on nous le demande, vendredi prochain... Non, c'est pas ça.
Si.
Vendredi prochain, 27 octobre, de 15h à 18h30, Jean Al-Kader dédicacera le vrai visage de l'islam à la librairie France au livre.
Permettez-nous un petit coup pour le lendemain.
On nous l'a redemandé, samedi prochain, 28 octobre, de 13h30 à 17h, à Reynald Secher dédicacera la Vendée vengée. De 15h à 18h30, Hugues Kirali dédicacera la véritable histoire des cristeros, toujours à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont. la procession des bannières aura lieu de Notre-Dame du Perpétuel Secours, 55 boulevard de Ménilmontant, métro Père-Lachaise, à Notre-Dame de Paris, le 1er novembre prochain.
Donc c'est pour la Toussaint.
Rendez-vous à Notre-Dame du Perpétuel Secours, à 14h, conférence du Père Baron, 15h30, départ, 17h30, vêtre à Notre-Dame, messe possible à 10h30 à Notre-Dame du Perpétuel Secours ou à 18h30 à Notre-Dame de Paris. Renseignement 33 rue de Dantzig.
Je rappelle que la Toussaint est une fête d'obligation.
Une messe de requiem sera célébrée pour le repos de l'âme de Jean Ferré par l'abbé Alain Laurence le samedi 4 novembre à 10h en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, 23 rue des Bernardins, métro Maubert Mutualité. Dimanche 19 novembre, c'est loin, on a encore le temps. Bon. Lydie Barquette piano, Anne-Cécile Renard soprano donne un concert de musique classique à l'église Saint-François de Sales, 6 rue Brémontier, Paris 17e.
Voilà, c'est au profit des œuvres hospitalières de Malte, c'est la raison pour laquelle nous annonçons ce concert.
Samedi 21 novembre à 20h30.
C'est encore plus loin, ça c'est bien.
Conférence de Philippe Pichot-Bravard sur le thème les guerres neuves. Les guerres de Vendée sont-elles un génocide ? À la maison Saint-François de Sales, 47 Terre Avenue de l'Abreuvoir à Marly-le-Roi, renseignement 06 33 39 26 14.
Voilà encore un sujet vendéen.
Vente signature des écrivains catholiques, mercredi 22 novembre, à la mairie du 6e, place Saint-Sulpice, de 14h à 19h.
Voilà, oui.
Et on peut rappeler qu'il y a une exposition Paysages de France de Michel Ney.
C'est un très très joli, un très très bon peintre, un très bon aquarelliste.
Jusqu'au 19 novembre.
Où ?
Ah, 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 ah,
voilà une bonne question.
Ah, 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 c'est caché. À l'atelier Michel Ney, hameau des Lais, face à la chapelle, 78 690 Les Essarts-le-Roi, téléphone fax 01 30 41 66 67.
Voilà, tous ces messages en principe seront laissés
au secrétariat. Qui se fera un plaisir de les redire.
Une question rapide à vous poser, messieurs. Je n'y répondrai pas, ou peut-être à la finale, il nous reste 3 minutes. Qu'avez-vous pensé l'un et l'autre de la loi votée par le Parlement français relativement au génocide arménien ?
C'est profondément stupide. Enfin, je ne sais pas, il faut laisser répondre l'historien.
Oui, c'est
la seule fois où j'ai entendu des politiques dire quelque chose d'à peu près intelligent, qu'on n'avait pas à légiférer sur des questions qui ne sont pas encore tranchées par l'histoire et qui ont sacrément besoin de l'être. Enfin, qu'en pensez-vous ?
Alors, il y a deux aspects des choses. Le premier aspect, c'est évidemment par rapport à mon travail, c'est-à-dire sur le génocide vendéen. On m'avait reproché d'utiliser rétroactivement une définition juridique qui avait été énoncée en 1943. Et le gouvernement fait voter une loi sous la pression socialiste de reconnaissance et de sanction par rapport au génocide arménien qui a eu lieu en 1915-1916. Donc c'est à sourire de ma part. Ceci dit, moi je suis absolument contre toute loi de cette nature parce qu'elle empêche de penser, elles empêchent aux historiens de faire leur travail et je pense que c'est un incroyable barrage à l'intelligence.
Que le gouvernement français et le gouvernement mexicain laissent les historiens rien s'exprimer le plus largement possible sur ces deux abominables massacres, l'un génocidaire qui ont eu lieu en 1793 et puis à partir de 1926. Il nous reste 2 minutes.
Alors on nous demande le numéro de téléphone pour la procession des bannières, c'est le 01 44 73 95 23 et j'ai même le temps de répéter 01 44 73 95 23.
Eh bien écoutez, c'est parfait. Hugues Kérali, Reina Secher, merci infiniment. C'est très bien parce que alors donc Reina Secher a pris mon exemplaire de Savant démangé pour le dédicacer à Kérali et moi je vais partir avec une main devant et une main derrière. C'est sympathique. Maintenant je n'apporterai plus mes livres, c'est fini. Bon, voilà. Donc Hugues Kérali, merci infiniment d'être venu nous parler des Christeros. Merci également à Reynald de tout ce travail qu'il fait autour de la mémoire et de la Vendée. Nous espérons nous revoir bientôt. Enfin, on se reverra là. Enfin, on reparlera dans le poste la semaine prochaine. Je vais laisser maintenant la parole à Serge Beketch pour la seconde partie, de son libre journal. D'ici là, bien sûr, que Dieu nous garde. Mmh.
merci de passer la soirée avec nous sur Radio Courtoisie à 21h tout à l'heure. Rendez-vous avec Claudio pour les soirées musicales. Tout d'abord la discothèque pour connaisseurs et amateurs avec un enregistrement de 1962 du Chants et Danses de la Mort de Moussorski. 22h les musiques de films et 23h les grands pianistes. Cette semaine vous entendrez des œuvres de Bach et de Mozart interprétées par Dino Lipatti. Tout de suite la seconde partie du Libre Journal de Serge de Bekech en direct. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 25 octobre 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 26 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou encore par courrier électronique en écrivant à contact@radiocourtoisie.com.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Bonsoir, le cœur.
Tout le monde va bien ?
Tout le monde va bien.
Oui. Autour de cette table, Victoria, bien entendu.
Fidèle au poste.
The Voice.
Oh la voix. Barbarité.
Victoria, The Voice, oui. The
oh,
Voice.
Oui, oui, oui.
L'équivalent de Sinatra en dame.
Voilà. Ah bah tiens.
Sinatra, oh. Voilà un chanteur.
Ben oui.
Oh là là, formidable.
Je voudrais bien avoir...
Le Marquis.
Oui. Bonsoir.
Et Goffman n'est pas là. Je l'ai mis en pénitence.
C'est vrai.
Il travaille en boucle demain, en boucle Libre Journal demain.
Donc il s'est couché de bonne heure.
Bah écoutez, je suis pas.
Il sera là demain.
Je suis pas chargé.
Où on est que tous les deux.
Non, il sera là pour le bouclage. Bah vous savez, quand on fait un bouclage tous les deux, c'est moins brillant quand même. Hein.
Ben si, nous a téléphoné pour nous féliciter en disant que ça avait jamais été aussi bien.
Au micro, il l'a dit.
On dirait quand on fait un journal à nous deux.
Nous deux, mettez-le.
Oui, enfin, les
Madame
lieux,
Bendouquet.
Je comprends. Oui. Les lieux ressemblent après à la terrasse du café le week-end où mon camarade, l'ostriculteur Christophe.
Ah oui, à cause des coquilles.
Gueuzel.
Oui.
Passe.
À Goffman,
le signal qu'il est revenu, là, il est revenu le jeudi et le vendredi.
Ah bon?
Place France, ici, un ostriculteur. Si vous aimez les huîtres, mesdames et messieurs, je vous signale que. C'est chez lui qu'il faut aller. Elles
bon,
sont très bonnes.
Il était très bien le dernier
jour. C'est de la Trinité. D'ailleurs, oui. Tout ce qui vient de la Trinité,
c'est
excellent.
Bien. Même quand ça a atterri à Boulogne.
D'accord. Pourquoi à Boulogne?
À Boulogne.
Il y a encore
Non, à côté de Paris. À Saint-Cloud, pardon.
Ah bah ouais. Votre mot d'esprit vient de tomber avec un bruit mat.
Alors ça fait floupe.
Oui, François Boulogne.
Ben, je suis très... Alors, je suis très enrhumé, mais ça, c'est autre chose. Mais je suis très content parce que j'ai écouté lundi l'émission de Jean Descartes. Et alors...
Remarquable.
Formidable. Et vous savez ce qui se passe? C'est extraordinaire. On avait l'impression que c'était une émission de Jean Ferré, parmi les meilleures qu'il faisait.
Voilà. Oui, mais Ferré, il était très présent.
C'est exactement dans le ton des émissions de Jean. Alors, la conversation, la grande, belle conversation entre Jean Descartes et Monsieur Tullard, qui j'ai une admiration, voilà un historien.
Sans borne.
C'était absolument passionnant, mais vraiment passionnant. Et puis, on ne s'est pas ennuyé une seule seconde, donc Jean Ferré est toujours là, et nous en rajoutons. D'ailleurs, il est là dans toutes les émissions, y compris dans la mienne, curieusement, parce que, vous savez, je pensais à ça en venant tout à l'heure, je me disais, si je dis une bêtise, il ne va pas m'engueuler. Et ça va me manquer au fond.
Oui.
Hein, mais j'étais pas content quand il m'engueulait à l'époque, mais.
Oui, ça va vous manquer.
Ouais.
Enfin, vous n'accumulez pas les bêtises non plus. On peut vous aider, notez bien.
C'est-à-dire que, non, c'est pas que j'accumule les bêtises, c'est que j'ai un genre d'humour qui n'est pas partagé par tout le monde. Alors, je sais pas pourquoi. Vous savez, les rappeurs ont le droit de dire absolument n'importe quoi. Bon.
Et pour vous, c'est rappé.
Et alors, on trouve ça drôle, c'est les juges vous disent c'est du deuxième degré, on peut pas les condamner et tout. Mais moi, je suis pas censé faire de l'humour. Alors, quand je fais de l'humour, on me dit, mais c'est pas drôle du tout, et on m'envoie...
Quand vous faites l'humour, c'est la guerre.
On fout des amendes. Ouais. Parce que...
Vous êtes une victime, Serge.
Ouais, je suis une pauvre victime.
Ouais.
Tiens, à propos, je vais publier, à propos de victime, je vais encore accroître l'immense cercle de mes amis en publiant dans les jours qui viennent un livre que je me permets de vous recommander, dont je suis l'auteur.
J'imagine, oui.
Oui, qui s'appelle Le catalogue des nuisibles.
Ah bah, très bien. Faites-moi plaisir, dites qui s'intitule.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Qui s'appelle. Tout le monde dit ça maintenant.
Heureusement que vous êtes là pour me corriger.
Voilà, oui, ben oui.
Alors, qui s'intitule? Que l'on intitule.
Oui, que l'on intitule.
Que j'ai intitulé.
Voilà. Les nuisibles, le catalogue des nuisibles.
Le catalogue des nuisibles.
On va retrouver des gens qu'on connaît, là.
Ah oui, ça, oui, comme vous dites, on va retrouver plein de gens qu'on connaît.
Mais on va finir sur un confetti. Hein.
Je pense qu'on va finir dans les mines de sel, oui.
On va ça sera moi le directeur.
Il faut quand même que je dise aux auditeurs que... Étant donné les bonnes relations que vous entretenez avec Marine Le Pen...
Je m'en félicite.
Je vous en félicite aussi, vous avez bien du mérite. Ben si, pourquoi?
Non, c'est que du bonheur, j'ai pas de mérite.
Ben, bien. Alors, Goffman... Pardon.
Ça, vous êtes puni.
Voilà où conduit la méchanceté. Goffman...
trouvé une carrière pour le cas.
Trouver une carrière pour vous quand on sera au pouvoir, c'est directeur des mines de Seine. Et nous, c'est extracteur.
Voilà. Moi, j'espérais l'Opéra de Paris, mais enfin, bon, tant pis. Je prendrai ce qu'on me donnera.
C'est à vous de voir avec le ministre de la Culture, qui sera probablement moi, je regrette de vous le dire.
Oui, oui. Ça promet.
Donc...
Votez Le Pen.
Voilà. Alors, je reçois ce soir quelqu'un que je voulais recevoir depuis très très longtemps. Parce que beaucoup d'auditeurs me l'avaient demandé, et puis ça se faisait pas pour des raisons qui m'échappent. C'est le Bolder Jacquet, si j'ose dire. Le Bolder Jacquet, c'est-à-dire Madame Delanef, qui est la directrice de la société Holiste, qui a fabriqué, mis en route le fameux Bolder Jacquet. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous demandez ce que c'est le Bolder Jacquet?
Mais non.
Vous le savez?
On en a déjà parlé, non?
Oui, bien sûr. Bah, vous savez tout, alors...
Mais j'attends la suite avec intérêt.
Et puis, Madame Mercier, qui est docteur en biologie, Béatrice Mercier, et qui travaille d'ailleurs dans le cadre de la société Holiste à des recherches, à des mises au point, etc. Alors, beaucoup, vraiment beaucoup d'amis auditeurs me disent depuis des années, mais pourquoi avec vos problèmes, pourquoi vous n'essayez pas le Bolder Jacquet? Bon. Alors,
bonne question.
Il allait falloir quand même que je me renseigne avant. Si, parce que si les gens vous disent pourquoi vous n'essayez pas de faire du vélo, par exemple, je sais pourquoi, parce que c'est très fatigant. Donc je préfère, voilà. Donc, je préfère essayer d'abord. Alors, pour ça, J'ai donc invité Marie-Laure de la Nef et Béatrice Mercier. Et puis, nous donnerons la parole à des utilisateurs, d'abord des patients, ensuite des soignants, comme on dit maintenant, un kinésithérapeute et un médecin. Mais, comme tout le monde n'est pas aussi bien informé que
vous commencez par ce que c'est,
on pourrait peut-être s'intéresser d'abord à ce qu'est le bol d'air jacquier. Ouais. Alors, c'est pas un bol avec de l'air dedans, hein, je vous le dis tout de suite, c'est un peu, un tout petit peu plus, j'en ai vu un, c'est plus compliqué. Il y a des trucs, des machins, enfin bref. Et, c'est de plus en plus utile, je crois, d'après les gens qui l'ont essayé, parce qu'on vit dans une époque, alors j'ai appris un mot, on vit dans une époque où sévit l'hypoxie. Alors comme j'ai fait beaucoup de grec quand j'étais petit, hypo c'est, enfin, hypo c'est cheval et oxy c'est l'oxygène, donc j'ai pas compris. Alors je me suis dit que ça devait être autre chose, en fait c'est plutôt le manque d'oxygène, ou le bas niveau d'oxygène dans l'environnement. C'est ça, madame de la Nef?
C'est pas tout à fait dans l'environnement, c'est plutôt à l'intérieur de l'organisme.
À l'intérieur du corps. Oui, mais si c'est bas à l'intérieur du corps, c'est probablement parce qu'on n'en trouve pas assez à l'extérieur. Non,
pas forcément.
Comment ça fait cette maladie?
C'est pas parce
hypoxie.
C'est pas loin de l'hypocrisie, le manque d'air.
Ben, voilà, c'est ça. Mais les hypocrites ne manquent pas d'air.
Ben, voilà, justement, je suis en train de chercher leur rapprochement.
Voilà, donc ce n'est ni provoqué par une chute de cheval, ni par l'hypocrisie, c'est tout simplement
on avance,
une carence en oxygène.
D'accord, on avance.
Alors, est-ce que c'est lié à la corruption, décidément à la pollution, je suis obsédé par la corruption en ce moment. Est-ce que c'est lié à la pollution, l'hypoxie, madame Mercier?
C'est lié à la corruption, comme vous dites, de l'air, par la pollution, oui. La pollution ambiante est absolument terrifiante à l'heure actuelle, que ce soit dans l'air, que ce soit dans l'eau, dans les aliments, dans les médicaments, dans les amalgames dentaires. On en trouve un petit peu partout. Et tout ceci va avoir des répercussions au niveau biochimique, au niveau de la cellule. Donc c'est vrai qu'on peut respirer un air pur et être malade et donc avoir des problèmes du taux d'oxygène au niveau de la cellule, ou on peut, malheureusement, ce qui nous arrive en ce moment, c'est respirer un air qui est enrichi en poussière, qui est enrichi en poussière de métaux lourds, qui est enrichi en tout un tas de cochonneries. Par exemple, si vous avez le malheur d'être à côté d'un fumeur, vous respirez des quantités absolument incroyables de choses très désagréables pour l'organisme. Tout cela va provoquer...
J'espère que ma femme vous écoute, là, en ce moment.
Mais je lui dis, il faut arrêter de fumer, là. C'est très sérieux. C'est très, très important. Elle respire du cadmium, elle respire du monoxyde de carbone. Prenons l'exemple du monoxyde de carbone. Il est attiré à 200 fois plus par l'hémoglobine que par l'oxygène. Donc ça veut dire que vous aurez une hémoglobine qui prendra tout le monoxyde de carbone possible, mais qui laissera passer son oxygène. Et à ce moment-là, bah, s'il y a au-delà de 20% d'hémoglobine enrichie en monoxyde de carbone, vous avez de gros, gros problèmes de santé.
Alors, ce que j'aimerais que, bien que vous soyez docteur, vous n'êtes pas docteur en médecine, vous êtes docteur en biologie, je ne veux pas vous faire sortir de votre domaine de compétences direct, mais je pense que vous avez étudié la question. On nous dit d'une part, enfin vous nous dites d'une part que l'hypoxie, la carence en oxygène, est quelque chose de dommageable. Mm-hmm. Et puis d'autre part, on nous dit il faut prendre des antioxydants parce que l'oxydation, c'est un processus de vieillissement rapide qu'il faut ralentir. Or, sauf erreur de ma part, l'oxydation est provoquée par un excès d'oxygène. Alors, entre la carence et l'excès...
C'est tout le problème, en fait, de la biologie. Et quel que soit ce que l'on regarde, il faut être modéré en tout et avoir un équilibre en tout. Le manque d'oxygène, comme l'excès d'oxygène, va provoquer la formation de radicaux libres. Par exemple, si vous êtes sur le bord de la route, vous avez un accident, vous posez un garrot. On vous demande impérativement de noter l'heure de pose du garrot, tout simplement parce que de retour à l'hôpital, si le temps est dépassé, on va couper le membre. Tout simplement, oui. C'en est là, tout simplement parce qu'il aurait été privé trop longtemps d'oxygène.
Donc ça provoque une nécrose à ce moment-là ou...
C'est-à-dire que ça se passe vraiment, c'est quelque chose de biochimique, je vais essayer d'être pas trop technique. Vous êtes au niveau de la cellule, dans la cellule il y a des petites choses qu'on appelle des organites, qu'on appelle les mitochondries. Ce sont elles qui ont d'habitude la charge de transformer le glucose, les nutriments en énergie. là, elles n'ont plus d'oxygène pour cela, et à ce moment-là, elles vont fabriquer des radicaux libres quand l'oxygène va revenir, au lieu de fabriquer de l'énergie.
Vous savez, ce qui me fascine dans ce genre d'exposé, c'est que vous avez des gens qui, après avoir écouté ça, vous disent « Donc, la vie est le fruit du hasard. » C'est fabuleux, parce que le hasard, il est quand même vachement baraqué pour faire des trucs pareils. Moi, je préfère croire en Dieu. Oui, parce
que bah oui, le hasard avec un D majuscule, quand même.
Ah oui, oui, mais je préfère pas l'appeler le hasard, parce que ça ne va pas lui faire plaisir. Mais on sent qu'il y a une intelligence du créateur ou de la création qui est vraiment prodigieuse.
Oui, nous sommes faits de manière absolument extraordinaire, puisque ces fameux radicaux libres qui sont des sortes de ciseaux chimiques, on en a besoin.
Oui, c'est ça. En plus, on en a besoin.
Vous imaginez que vous voulez, je sais pas, faire un vêtement, une jupe, une robe. Vous avez besoin de ciseaux pour couper le tissu. Ben, ce sera le rôle des radicaux libres de couper. Et par contre, si vous avez trop de coups de ciseaux à tort et à travers, je vous laisse imaginer l'état de votre jupe ou de votre robe.
C'est vrai, je ne porte pas souvent des jupes, mais je peux imaginer ça.
En kilt, c'est pareil. Hein.
Oui. Bon.
Donc le tout, c'est l'équilibre. Et le manque d'oxygène, comme l'excès d'oxygène, peut provoquer ces fameux radicaux libres.
Alors en l'occurrence, puisque là on parle d'hypoxie, c'est-à-dire de carence en oxygène dans l'organisme humain, quelles sont les pathologies les plus couramment provoquées par cette carence?
Oui, il y en a énormément, puisque on le sait tout simplement en voyant ce qui se passe lorsque vous manquez d'oxygène. Par exemple, une personne qui va ronfler, c'est vraiment quelque chose de tout à fait commun, le ronflement, l'apnée du sommeil. Donc cette personne va risquer d'avoir des problèmes cardiovasculaires beaucoup plus importants, une fatigue généralisée qui va augmenter le risque d'accident. Donc c'est vraiment, chez les adultes, c'est vraiment quelque chose de très important. Les enfants ronflent aussi, c'est moins connu, mais les enfants ronflent quand même. À ce moment-là, vous aurez plus de malchance d'avoir un enfant hyperactif, qui a du mal à se concentrer, qui a du mal à mémoriser au niveau de l'école. Pour une femme enceinte, vous avez des problèmes de prééclampsie, d'hypertension gravidique,
de prééclampsie.
Oui, c'est quand ça se passe très mal et que la maman est très très mal partie.
D'accord.
Le score d'Apgar, qui est l'étude que l'on fait sur le bébé quand il naît, est très bas. Donc ça veut dire que c'est un enfant qui est quand même pas très très bien parti. Tout ça parce que la maman est en état d'hypoxie. Donc c'est pareil, quand c'est une maman qui fume, par exemple, elle se met en état d'hypoxie et on retrouve les mêmes phénomènes.
Alors, comme ça m'intéresse, moi, personnellement, je note, en tout cas, parmi les... Je vais noter toutes les raisons que j'ai de me soigner. Alors, donc, premièrement, le ronflement. Parce les voisins ont déposé une pétition pour protester parce qu'ils prétendent que j'entretiens à la maison clandestinement un banc d'essai pour moteur d'avion. Ouais, c'est pas ça du tout, en fait. Donc, ronflement.
Obésité.
Pardon.
Non, madame avait remarqué.
Quoi? Me dites donc, Marquis, je vous en prie. J'en ai autant à votre service. L'obésité, voilà.
Le surpoids et l'obésité.
La surcharge pondérale, on dit, quand on est bien élevé.
Mais je ne suis pas bien élevée.
Ça continuez, madame.
Le surpoids et l'obésité sont également reliés à un manque d'oxygène.
Mais pourquoi vous faites la différence entre surpoids et obésité?
L'obésité, c'est vraiment quelque chose qui est très marqué. Le surpoids, ça. C'est quelqu'un de gentiment enrobé. Le problème,
alors, moi, c'est surpoids. Et le marquis, c'est plutôt obésité.
Moi, je suis délicieusement potelé.
Ah bon?
Je suis désolée de vous contrarier, mais non.
Morphologie.
Merci.
Trahie.
Et surtout au niveau du ventre, c'est-à-dire que vous avez.
Donc je suis pas obèse. Je suis ventru.
Vous avez un surpoids de type androïde. C'est le plus.
C'est chic, ça.
C'est très chic.
Au mieux, quand même.
Non, c'est le plus dangereux.
Ah bon? Alors,
je suis désolée, parce que vous êtes atteint ce qu'on appelle le syndrome X. C'est-à-dire que vous risquez, je suis désolée.
Non, allez-y.
On va pas finir l'émission.
Je vais essayer de pas m'évanouir de terreur avant la fin de l'émission. Syndrome X, je note.
Syndrome X. Donc, vous risquez donc des problèmes cardiovasculaires, vous risquez surtout un état de prédiabète. Or, et un état inflammatoire, parce qu'on s'aperçoit que la graisse qui s'accumule au niveau du ventre, donne beaucoup plus de... de produits qu'on appelle des cytokines inflammatoires que les autres. Et ce sont des graisses qui n'entendent plus, entre guillemets, le message de l'insuline. C'est-à-dire que votre pancréas est obligé de fabriquer beaucoup plus d'insuline pour pouvoir être compris par la cellule.
Il faut que je me coupe les veines tout de suite ou j'ai des chances de m'en tirer?
Mais prenez du bol d'air, cher ami.
Pardon?
Prenez du bol d'air.
Ah bon, d'accord, bah si, alors ça me va.
Voilà.
Si c'est le bol d'air. Alors, j'ai déjà trois raisons. Dans le syndrome X, c'est quand même, si je rentre à la maison et que j'ai ma femme, tu sais, je suis atteint du syndrome X, elle va me dire, bon,
c'est moins grave que
je supprime les abonnements à Canal+. Oui.
Ça s'appelle avoir un pied sur terre et un pied sur le Titanic.
C'est ça.
C'est pas comme ça, comme ça. Moi, j'ai un pied sur une peau de banane et l'autre dans le cimetière.
Non, un pied bien sur terre, il n'y a rien de sur terre, je vous rassure.
Ah bon,
alors la troisième raison, c'est pour, franchement, c'est au niveau de votre toux. Mm-hmm. Hein, le fait de respirer le bol d'air, ça va quand même avoir un effet antiseptique local, et vous en avez besoin.
Mais moi, je me suis mis...
Après, c'est tout, je vous promets...
Non, mais voilà, ça suffit.
L'état des lieux est quand même...
Je vous rappelle que je ne suis pas médecin.
Je suis déjà un miraculé, donc c'est bien.
Continuez.
Et pour la gorge, je me suis mis dans la tête, après diverses expériences, quelque chose qui a fait éclater de rire le professeur Féjean. Je lui ai dit, je crois que j'ai un champignon.
C'est pas idiot, ça existe.
Non, mais ça l'a fait rire, parce qu'il dit non, c'est pas ça du tout. Il dit, t'es trop gros, de toute façon, point à la ligne, voilà, discutons pas.
Ah bon?
Et alors, le champignon serait... Est-ce que justement un champignon peut se développer?
Oui, bien sûr, un
champignon. Par hypoxie?
Oui, parce qu'un champignon... Enfin, si vous voulez, le problème, c'est que...
Enfin, dans un milieu...
Le problème, c'est ce qu'on appelle le facteur limitant. Vous avez besoin, pour fonctionner, de différentes choses. Si vous manquez d'oxygène, c'est l'oxygène qui va être un facteur limitant. Mmh, donc votre cellule ne va pas fonctionner parce que vous manquez d'oxygène. Le bol d'air, il va simplement combler ce facteur. Mmh. Maintenant, si vous avez d'autres facteurs limitants, à ce moment-là, c'est eux qui vont prendre le relais. Le bol d'air va intervenir simplement. C'est déjà énorme là-dessus.
D'accord. Alors, justement, là, on en arrive à la question que j'allais vous poser maintenant. Quels sont les différents remèdes en dehors du bol d'air qu'on peut trouver pour, bon, disons, le ronflement, l'obésité? Bon, l'obésité, on sait, c'est d'arrêter de manger, en gros, c'est ça. Hein.
Alors, pour l'obésité, nous avons une équipe qui travaille en Italie à l'heure actuelle, celle du professeur De Cristofaro, qui est nutritionniste et endocrinologue, et lui va offrir à ses patients un panel de choses, parce qu'il est bien évident que tout ce type de maladies, de syndromes, ont des origines plurifactorielles. Mmh. Donc, le professeur De Cristofaro va offrir une aide psychologique. Il va offrir une aide médicamenteuse si nécessaire, une aide malheureusement diététique. Ça, je peux vous prédire que si vous buvez de l'alcool ou si vous mangez des gâteaux longue journée, vous serez pas...
Non, mais si un Italien qui s'appelle Cristofaro essaye de m'empêcher de manger des pâtes, ça va vraiment me vexer beaucoup.
Le professeur n'interdit pas de manger des pâtes.
Ah, mais il est italien.
Par contre, il demande une dose restreinte par jour, typée par jour, et... à certains moments de la journée. En gros, vous aurez la chance de pouvoir manger des pâtes si vous vous bougez les fesses.
Bon, tout se mérite.
On ira s'en
rappeler alors.
Oui, ouais.
Et donc, le bol d'air est utilisé par le professeur De Cristofaro, tout simplement parce qu'on s'aperçoit que plus une personne est obèse, plus elle manque d'oxygène au niveau cellulaire et plus elle est incapable d'utiliser ses réserves pour fabriquer de l'énergie. Plus une personne manque d'oxygène, plus elle va être obligée d'utiliser les malheureuses carottes à l'eau qu'elle utilise, qu'elle mange.
D'accord.
Par contre, quand elle a de l'oxygène à disposition, à ce moment-là, elle peut métaboliser ses lipides. Et c'est le but du jeu quand même. Pour maigrir, il faut bien maigrir et il faut donc perdre de la graisse et non du muscle. Or, dans les régimes classiques, la majorité des gens perdent du poids, bien sûr, mais ont une certaine tendance à perdre du muscle. Mmh. Parce que le muscle est plus facilement utilisable par l'organisme en absence d'oxygène.
C'est extrêmement intéressant, ça. Mais ça ressemble quand même un petit peu à une panacée, votre bol.
Oui, c'est à peu près là. Quand je suis venue pour la première fois, quand j'ai un peu regardé tout ce qui se passait, je me suis dit, non mais c'est fou, je suis où là? Et en fait, il faut savoir aussi que toutes les cellules ont besoin d'oxygène, donc c'est tout à fait normal que nos résultats partent dans tous les sens.
Bien sûr. Alors, on a vu ce que c'était que l'hypoxie, ses conséquences pathologiques. On a fait un survol des différents remèdes qui peuvent se limiter à une phrase que j'aime bien, c'est ce qui est bon est mauvais, ce qui est mauvais est bon. En gros, c'est ça.
Non, ce qui est bon, c'est l'équilibre en tout.
Ah oui, mais enfin, quand on vous dit qu'il faut faire 40 km à vélo tous les matins...
Non, pas du tout.
Non.
Il faut qu'il y ait une activité équivalente à 3 mètres, à peu près de 1h30 à 2h par jour. 3 mètres, c'est 3 fois votre métabolisme de base.
3 mètres,
c'est une unité.
Ah, mètres,
3 mètres, parce que ça on peut les faire.
Je croyais qu'il fallait faire 3 mètres en marchant, alors j'étais prêt à sacrifier.
Ça fait à peu près 4-5 km quand même.
Ah, voilà, oui, c'est ça, c'est la moyenne.
Bon, bien sûr, vous pouvez réduire, par exemple, en montant les escaliers à toute allure.
Ah, ouais. Ça, les deux premières marches, ça va très bien.
Mais après, vous pouvez réduire si vous faites du bol d'air.
Absolument.
Surtout.
Ah, ouais. Oui, bien sûr.
Vous vouliez dire quelque chose, Victor?
Non.
Est-ce que vous montez les escaliers à toute allure, vous?
Pas à toute allure, mais je les monte plusieurs fois par jour. J'habite au 4e sans ascenseur.
C'est pour ça que vous avez une silhouette de sylphide.
Ouais, je trouve pas. Enfin, bon. Bref.
Vous savez, il faut garder le bon sens, hein. Et de la mesure en tout. Donc il ne faut pas non plus être excessif dans ce que l'on fait, mais il faut arriver à faire tous les jours quelque chose.
Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il est trop tard aussi?
Non,
il n'est jamais trop tard.
Jamais. Bon,
déjà, c'est rassurant.
Non, jamais.
Alors, maintenant, ce bol d'air jacquier, là je me tourne vers Madame Delaneffe, il est né comment?
Il est né comment? Alors, c'est une invention de René Jacquier qui est chimiste, et se trouvait, à l'époque où il a inventé le bol d'air, il se trouvait au Brésil, et il travaillait dans une grande firme qui s'appelait le Rhône-Poulain, qu'il dirigeait un laboratoire de recherche. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les antibiotiques, mais aussi les biotiques, qui a rencontré Fleming, qui était vraiment au cœur du sujet la santé. Hein, toute sa théorie, c'est comment rester en bonne santé et comment faire en sorte que l'organisme fonctionne bien de façon à rester en bonne santé. Donc lui, son approche, ce n'est pas une approche de type médicamenteuse, c'est comment rester en bonne santé. Alors donc il travaillait au...
Oui, il soigne pas les maladies, il soigne la santé pour qu'elle dure.
Oui, je sais plus quelle est la phrase qui dit tout le temps un corps qui n'est pas malade, c'est un corps qui est en bonne santé.
Enfin, c'est ça. C'est le contraire de ce que disait
Knock. La palissade, mais bon.
Et la bonne santé est un état essentiellement passager.
Passager, précaire.
Ouais.
Et donc, revenons à Jacquier.
Oui, donc ses filles avaient la coqueluche. Et à l'époque, pour guérir de la coqueluche, on proposait le voyage en avion.
C'est
quelque chose dont vous avez certainement entendu parler.
Mais non seulement ça, mais j'ai toujours rêvé d'avoir la coqueluche pour pouvoir faire mon baptême de l'air.
Ça existe toujours, ça s'appelle les vols de Strasbourg, vous pouvez y aller.
Ah bon? Ben oui, maintenant c'est fini, j'ai pris l'avion et j'aime pas ça en plus. Alors donc, quand j'étais gamin, je rêvais de prendre l'avion, effectivement.
Alors, comme ses filles étaient gravement atteintes et que c'est un chercheur, il s'est demandé pourquoi ce voyage en avion est-il si efficace. Et il a, de ses réflexions, il a conclu que lorsque on monte brutalement en altitude, il y a une décompression et une libération très rapide d'oxygène au niveau de la cellule. Et d'un oxygène particulier, naissant, assimilable. Donc à partir de là, il a cherché à reproduire ce phénomène-là et il a mis au point ce fameux bol d'air. Donc à l'époque, il a essayé lui-même, d'abord sur lui-même, hein, et puis il a publié à l'Institut Oswald de Cruz une théorie sur l'oxygénation et le rôle de l'oxygénation dans les pathologies graves et notamment dans le cancer. Donc cette méthode est très ancienne. Elle a été inventée il y a presque 60 ans maintenant.
Et pardon de vous couper, mais vous venez de dire quelque chose qui me paraît très intéressant. Donc, l'oxygénation, enfin, l'hypoxie, donc, est un facteur cancérigène ou crée un terrain favorable au cancer, c'est
oui,
ça?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et donc, l'oxygénation qu'on obtient par, soit par le voyage en avion, soit par le bol d'air jacquier, peut prévenir.
Est une aide très importante.
Oui, parce que c'est une oxygénation modérée, puisque les radicaux libres sont aussi à la base de la formation du cancer. Par contre, l'hypoxie va induire un facteur qui lui-même va induire la formation de ce qu'on appelle le VEGF, qui est un facteur de formation de vaisseaux. Or, une cellule qui se...
Il y a beaucoup de questions qui sont très intéressantes. Pardon, excusez-moi, je signale aux auditeurs que nous allons poser leurs questions. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent si on attend un peu, parce que on a une progression dans l'entretien sur le bol d'air jacquier, et toutes les questions qui sont posées là correspondent à un des aspects de l'entretien. Je ne voudrais pas anticiper. Donc, on parlait du système de prévention d'assistance aux soins.
Par rapport à un cancer qui se développe, est un cancer qui se vascularise. Et il fabrique un produit qu'on appelle le VEGF. Or, une des causes de fabrication du VEGF, c'est l'hypoxie.
D'accord.
Il y en a d'autres. Donc, le fait d'enlever celle-ci, c'est bien. Et de manière modérée, comme peut le faire le bol d'air. Toujours pareil. Dans le bol d'air, on est dans le rééquilibrage.
Mais alors, ok, là je comprends. Je me tourne vers Madame Delaneve, parce que on a vu quelle est la genèse du bol d'air jacquier. Mais c'est un appareil, le bol d'air jacquier. C'est un appareil qui traite l'air ambiant et qui le pulse. Et on peut se poser la question, pourquoi ne suffirait-il pas d'avoir un masque et des bouteilles d'oxygène et puis de faire respirer de l'oxygène 2-3 fois par jour? Qu'est-ce que ça a de particulier?
Alors, il faut bien comprendre que on parle d'hypoxie, il s'agit de manque d'oxygène au niveau de la cellule, mais il ne s'agit pas de manque d'oxygène au niveau de ce que l'on respire. L'air ambiant est chargé normalement en quantité suffisante d'oxygène. Même lorsqu'on est dans une pièce confinée, il reste suffisamment d'oxygène pour qu'on puisse vivre. Donc le problème n'est pas le manque d'oxygène apporté à l'organisme par les voies respiratoires. Le problème, c'est comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule.
Et donc comment on l'amène, cet oxygène, à être en contact avec la cellule, j'imagine.
Voilà. Enfin, je parle du bol d'air, là.
Oui, avec le bol d'air.
Donc, de ce fait-là, les méthodes d'oxygénation qui apportent une quantité supplémentaire d'oxygène ne sont pas forcément efficaces, puisqu'on a dit qu'on avait suffisamment d'oxygène. Donc, le problème n'est pas un problème quantitatif. Il va falloir, et c'est toute la démarche de Jacquier, trouver un procédé pour que l'hémoglobine joue beaucoup mieux son rôle et que la cellule soit mieux oxygénée. Donc, ce qu'il a mis au point, c'est un dispositif, c'est une machine qui permet de faire passer de l'air dans des extraits naturels de résine de pin, qui sont des produits très spécifiques, hein, que ce sont les seuls produits que l'on va utiliser dans le bol d'air. Donc cet air va se charger d'alpha, de bêta-pinène, qui sont les produits les plus volatiles qui se trouvent dans cette essence. Et ensuite, ce gaz chargé en terpènes va passer dans un dispositif où ces terpènes vont être transformées. Elles vont être transformées en peroxyde d'alpha et bêta-pinène. Alors c'est peut-être un peu rébarbatif comme nom, mais...
Oh, je suis sûr qu'il y a au moins 2 ou 3 auditeurs qui comprennent. Hein,
voilà. Et donc ce que l'on va respirer, ce n'est pas de l'oxygène. Hein, c'est un... On va dire un catalyseur.
Ah, c'est ça. Oui, d'accord.
Ah, vous donc, avez dit... Il n'y a pas d'hyperoxygénation, il n'y a pas de suroxygénation quand on fait du bol d'air.
Pardon. Vous avez parlé d'essence de pin très particulier.
Alors, je parlais c'est ça, c'est l'essence de la résine, c'est pas
l'essence de résine, oui. C'est un pain très particulier, on a parlé de ça hors micro.
Oui.
J'aimerais que vous développiez un peu, parce que c'est très intéressant, et c'est même...
Donc, il s'agit de Pinus pinaster, et pas seulement de Pinus pinaster, il faut aussi que ce soit une essence chémotypée. Chémotypée, ça veut dire qu'il y a une origine territoriale.
Territoriale, oui.
C'est un petit peu comme la vigne. Hein,
mm-hmm. Oui, qui ne pousse pas au-dessus.
Le pinot n'a pas les mêmes propriétés, les mêmes saveurs s'il pousse en Bretagne ou dans le sud de la France. Bon. Donc le chémotype, c'est quelque chose de très important. Donc l'huile utilisée pour
pardon
le
de vous couper une seconde, mais ça c'est un très beau mot à retenir quand on veut pas être taxé de racisme. On peut dire ce personnage est assez chémotypé. Je pique ça. Hein? C'est quand même très chémotypé, oui. Pardon de vous avoir interrompu pour dire une bêtise, mais c'est bien toujours de trouver du vocabulaire qui permet de faire un peu de slalom
dans la forme juridique.
Oui, voilà. Alors, donc, en l'occurrence, il s'agit d'un pain, on nous avait dit, qui est portugais comme les gardiennes d'immeubles.
Ça y est.
Donc, l'essence qui est utilisée, c'est donc Pinus pinaster, et le territoire qui convient, c'est les Landes françaises et portugaises. Toutes les essences qui proviendraient d'une autre contrée pourraient présenter des inconvénients, à savoir contenir des produits allergisants comme la delta 3 carène. Donc c'est ce qu'on met dans le bol d'air, hein, on a dit qu'on faisait passer l'air dans une essence.
C'est un peu comme un narguilé, non? Le système de fonctionnement, je sais pas,
Oui.
je vois bien que mon image vous ne plaît pas plus que ça, mais je pense à ça si ça barbote.
Non, mais ça fait peut-être quelquefois l'effet du narguilé.
C'est ça. Alors, ça dépend ce qu'on met dans le narguilé, bien entendu. Tandis que là, on est tranquille, c'est uniquement...
Non, ça barbote, effectivement. On envoie de l'air, ça barbote dans un flacon. Et ensuite, ça passe dans un dispositif où il y a une transformation. Et on respire un produit qui a été transformé.
Alors moi, ce qui me fascine, c'est quand même cette histoire de chémotype. C'est-à-dire que il y a dans le monde entier un endroit où on trouve ces pains qui produisent cette essence, ou cette huile, ce principe essentiel.
Oui, oui. Il y a beaucoup d'huile Pinus pinaster en Chine, par exemple. Mm-hmm. Mais ce sont elles contiennent beaucoup de delta 3 carène et elles sont extrêmement polluées aussi.
Alors, delta 3 carène, Béatrice Mercier, qu'est-ce que c'est?
C'est un produit chimique de la famille des terpènes, comme les alpha et les bêta-pinènes, mais que ne fabriquent pas les
pinus pinaster. Et qui est nocif.
Il est très allergisant. Hein, toutes les personnes donc, du nord de la France, des pays nordiques, du Canada, notamment les personnes qui travaillent dans les scieries, ont des problèmes d'irritation dus au delta 3 carène.
Ah oui. Ça, c'est quand même assez curieux. On est confronté à des réalités qu'on n'imagine même pas. Je pense qu'il faudrait vite retourner aux cavernes avec un feu de... Non, vous croyez pas? Je sais pas si on peut... Est-ce qu'on peut garder le feu?
Oui, mais vous ne respirez pas au-dessus.
Il ne faut pas respirer au-dessus, voilà. Donc, ça, c'est important de le préciser parce que j'imagine que la tentation de l'utilisateur français, qui est toujours malin, parce que les Français sont malins, tout le monde sait ça, c'est de prendre n'importe quelle huile et d'essayer de voir ce que ça va donner dans le...
Non, surtout pas. D'ailleurs, si certaines huiles, si elles sont peroxydées, elles deviennent toxiques. Ouais. Je parle des huiles essentielles. Mmh. Donc c'est un produit vraiment spécifique. En plus, il faut qu'il soit de qualité biologique. Que le gémage, c'est-à-dire l'extraction de la récolte de l'huile, ait été faite dans certaines conditions, sans adjonction de produits chimiques, puisque ces produits chimiques, après, on les retrouve au niveau des voies respiratoires, et c'est vraiment pas ce que l'on souhaite faire. Hein. Donc, c'est un produit vraiment très spécifique.
Alors, donc, on a vu qui était René Jacquier, comment il avait conçu cet appareil. Mm-hmm. On voit maintenant à peu près comment l'appareil fonctionne. Encore que j'aimerais bien que vous nous décriviez le fonctionnement propre de l'appareil.
Mais écoutez, c'est une machine qui est grosse à peu près comme un petit ordinateur, comme une petite télévision, on va dire. Et puis, à l'intérieur, il y a des flacons dans lesquels on met ces produits. Il y a donc une turbine qui envoie l'air ambiant, il y a un barbotage, il y a un vase de décantation, donc il y a tout un dispositif de flaconnage. Et ensuite, le gaz passe à l'intérieur, donc dans une partie invisible, au cœur de l'appareil, pour subir cette transformation.
Oui, parce qu'il faut dire, moi j'ai vu l'appareil, j'avais invité un kiné qui avait d'ailleurs le Molder Jacquet, bien sûr, puis qui avait la fameuse bicyclette de Frolla, je sais pas comment on peut appeler ça, mais et donc j'étais allé l'essayer chez lui et il m'avait dit essayez donc aussi le Molder, donc j'ai essayé au moins une fois. C'est un joli appareil, esthétiquement il est agréable, il est moderne, mais on peut avoir ça, je dirais pas dans son salon parce que ça surprendrait un peu. Mais dans une salle de bain bien tenue, c'est tout à fait un joli appareil avec des comme vous le dites, des parties
flaconnages,
des parties vitrées, un joli bleu, l'appareil est blanc, si j'ai bonne mémoire. Et donc, on n'est pas dans la technique Eiffel, vous savez, les savants fous du 19e siècle.
Oui, et puis c'est confortable. C'est-à-dire, on se met devant et on fait des inhalations de quelques minutes. Il n'y a pas de canule qui rentre dans le nez. Il y a juste une corolle de respiration. On s'installe devant, on ferme les yeux, on se relaxe et on profite de ces quelques minutes concevoir comme une détente également.
Alors, à propos,
c'est agréable de respirer.
On ferme les yeux, un auditeur nous dit que si on a des problèmes de déficience oculaire ou des problèmes aux yeux, il faut prendre des précautions particulières.
Non, pas du tout.
Non ?
Non,
il n'y a pas de danger.
Non, il n'y a absolument aucun danger.
Si la résine utilisée arrive dans l'œil de l'utilisateur, cela peut être très dangereux.
Oui.
Ah oui, mais ça
ne peut pas arriver avec l'appareil.
Je pense que résine, si on s'en met dans les yeux, on doit comprendre.
Il faut un vaccin anti-grippe, si on s'en met dans l'œil, c'est pas bon.
Non, mais il faut comprendre qu'il y a toute une histoire du bol d'air. Donc, au départ, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, il y avait des appareils qui fonctionnaient avec une flamme d'hydrogène. C'était extrêmement archaïque et difficile à régler. Et il y avait une ventilation très forte qui envoyait justement des gouttelettes. Et effectivement, si on recevait ça dans les yeux, c'était pas très intéressant. Donc, mais les appareils ont beaucoup évolué, la technologie a évolué. Aujourd'hui, on a un dispositif qui est réglable. Il n'y a aucune possibilité de projection de gouttelettes.
Donc on peut dire à cet auditeur qu'il faut qu'il mette au grenier le bol d'air grenier de son grand-père et que le bol d'air jacquier de son grand-père.
On peut même d'ailleurs mettre l'œil au niveau de la corolle de respiration. Il y a un petit effet antiseptique qui est intéressant.
Ça n'est plus dangereux, mais c'est même...
Oui, ça peut être intéressant.
C'est un appareil qui va nous taper dans l'œil. Là,
nous avons des utilisateurs qui sont atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge qui l'utilise, le DMLA.
D'accord. Alors maintenant, question pratique, comment êtes-vous devenu la société, comment Olis est-elle devenue la société?
Comment Olis est née? Écoutez, j'ai rencontré M. Jacquet il y a une vingtaine d'années, et justement, il y a 20 ans, les appareils étaient, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, très archaïques, avec une bouteille d'hydrogène, on faisait marcher ça avec une flamme, c'est-à-dire on avait un briquet, une petite molette, on essayait de régler le truc et ça marchait très bien, ça donnait de très bons résultats, sauf pour les gens qui réglaient mal leur appareil
mais ça, ils n'avaient pas le temps de s'en plaindre après.
Je sais pas. Bon, et puis il y a eu quand même quelques accidents liés à l'utilisation de ce gaz. Donc quand j'ai rencontré Monsieur Jacquet, on en était à ce stade-là. Et j'ai tout de suite été passionnée par cette méthode Et je me suis dit, il faut la moderniser. Donc, avec l'aide de M. Jacquier, nous avons travaillé sur un dispositif qui ne nécessitait plus cette flamme d'hydrogène. Et nous avons transformé le dispositif de peroxydation par un système d'arc électrique, des flux, etc. Donc la voie était ouverte pour une véritable modernisation et un appareil plus accessible à tout le monde, hein, au grand public et aux professionnels également. Donc ça a été la genèse de la société Holiste.
Merci, je dois vous lire un message parce qu'il vient de très loin, il vient du Québec. Vous savez que la radio Courtoisie est entendue dans le monde entier.
Très bien, bonjour Québec.
Par ordinateur. Oh, mais attendez, parce qu'il nous dit, voilà, c'est un monsieur qui écoute beaucoup notre émission et qui nous envoie souvent des messages. Mmh. Il nous dit, mon père, non-fumeur, vient de mourir à 85 ans. Père son âme. Sa mère, donc ma grand-mère, qui fumait un paquet de françaises par jour, est morte à 92 ans. Je fume un paquet de 25 minimum chaque jour que Dieu fait et mon toubi m'envie ma santé. Pour l'instant, hein, j'aurais tendance à dire.
Bien sûr.
Madame, voulez-vous nous ficher la paix avec la fumée des cigarettes? Les voitures qui brûlent, les flatulences des vaches sont autrement plus dangereuses. Ça, moi, je veux bien croire qu'effectivement, les flatulences des vaches sont moins agréables que le parfum des cigarettes américaines, mais...
Absolument. Mon grand-père a fumé jusqu'à sa mort. Il n'est pas mort de ça. Le problème, c'est que vous rajoutez la fumée de cigarettes à la fumée des usines, à l'alimentation déficiente, à une alimentation riche en nitrates, à de l'eau riche en métaux lourds. Donc, plus, vous avez vraiment, vraiment des problèmes. Mais que c'est tentant de dire le plus facile, c'est de ne pas fumer, mais...
J'ai une autre preuve de la dangerosité du tabac, c'est que, regardez, vous prenez Sitting Bull, Red Horse, enfin tous les grands chefs indiens et tous les grands chefs américains qui ont fumé le calumet de la paix, ils sont morts.
C'est vrai.
Quand même,
je suis d'accord avec vous, et là c'est vraiment une preuve, mais imparable.
Ah, c'est imparable, ça c'est.
Moi, et à quand la vache a bouffé le tronc?
Ah voilà, c'est intéressant. Bien.
Non, mais par contre, on pourrait récupérer pour en faire, pour le brûler et en faire de l'énergie. Hein.
Ah ben ça c'est sûr, je sais pas si ça plairait beaucoup aux vaches, mais il faudrait les équiper. Quand vous avez mis au point définitivement l'appareil tel qu'il est aujourd'hui, donc la société a commencé à exister, elle s'est développée, mais est-ce que c'est une société qui n'existe qu'en France, ou est-ce que vous avez un marché international?
On est une petite société d'une trentaine de personnes. On s'est développé en France, on a une très bonne notoriété en France, hein, on est connu, on a il y a à peu près 500 lieux où on peut aller faire du bol d'air en France. On s'est développé aussi dans les pays francophones, la Belgique, la Suisse, mais aussi en Espagne, en Italie. Voilà. Par contre, il y a des bols d'air dans le monde entier. Le bouche à oreille a fait que il y a des bols d'air dans le monde entier. La société Holiste n'a pas eu d'action très offensive à l'export, ce qui est notre projet, bien sûr, d'avenir.
Et alors, quelle est l'attitude maintenant du système médical face au bol d'air? Parce que moi, j'ai remarqué chaque fois que j'invite des créateurs, des gens qui ont inventé des systèmes de médecine holistique, ou de médecine douce, ils sont en but à...
En
coquetterie avec le système, voire en but à l'hostilité des mandarins. Alors, est-ce que c'est votre cas aussi?
Écoutez, lorsque j'ai commencé il y a 20 ans, effectivement, je me suis heurtée à des choses que j'avais même pas imaginées. Par contre, j'ai commencé après avoir rencontré le professeur Potrizel, qui était doyen de la faculté de Bordeaux, le professeur David, qui était professeur de chimie à la faculté de Bordeaux. Donc c'était quand même des sommités qui étaient très très intéressés par les théories de Jacquier et qui les approuvaient. Donc il y avait aussi beaucoup de médecins qui utilisaient le bol d'air à l'époque, le bol d'air à hydrogène. Donc, il y avait quand même des professionnels qui étaient à l'écoute de ce type de méthode. Par contre, je dois dire que le développement de Holist a été très, très, très difficile. Mais depuis une dizaine d'années, plus précisément depuis 3 ou 4 ans, les très jeunes médecins s'intéressent au bol d'air. Il y a aussi des travaux scientifiques importants qui ont été menés en Italie et en France par Béatrice Mercier à la faculté de Dijon. Donc tout ça fait qu'il y a une évolution considérable de notre capacité à capacité à convaincre. Donc oui, je vois les choses évoluent beaucoup très très vite ces dernières années.
Je vois que vous êtes en relation avec l'ANVAR.
Oui, tout à fait.
Vous êtes appuyé par le conseil général régional de Bourgogne, la région où se trouve votre entreprise,
je crois. C'est ça.
Conseil régional de Saône-et-Loire. L'hôpital de Giulianova en Italie, les laboratoires Kyrial, l'université de Bourgogne. Donc,
voilà.
On voit quand même qu'il y a une caution officielle qui est donnée.
Tout à fait. Nous avons été aidés par l'ANVAR, Oseo ANVAR, maintenant ça s'appelle.
ANVAR, c'est l'organisme qui aide à l'innovation en matière.
C'est l'aide à l'innovation.
C'est ça.
Ça dépend du ministère de l'Industrie ministère de l'Industrie et de la Recherche.
Alors, je me suis proposé d'appeler un kiné qui utilise, différents utilisateurs de votre appareil, du bol d'air Jacquier. On aura deux patients, on aura un kiné et peut-être un médecin si c'est, ses responsabilités le lui permettent, parce que je sais qu'il est de garde ce soir, et qu'il risque d'être un petit peu occupé. Alors si, j'espère qu'on pourra l'avoir, qu'on sera pas interrompu. Et là, j'ai demandé à Franck de bien vouloir appeler le premier intervenant qui est un kiné. Alors si vous voulez coiffer les casques, je vous y invite. Allô ?
Oui.
Monsieur Laudon.
Oui, bonsoir. Oui.
Bonsoir, monsieur. Donc, nous sommes sur Radio Courtoisie.
Oui, bonsoir.
Et je me proposais de vous interroger sur le bol d'air Jacquier.
Oui.
Parce qu'on en a parlé donc avec Madame Mercier et puis avec Madame Delaneuf, mais on a parlé des différentes pathologies. Et jusqu'à présent, j'ai pas bien vu dans quel créneau, si j'ose employer ce terme, cet appareil peut être utilisé en kiné.
Écoutez, moi, je l'utilise beaucoup. Je l'utilise d'abord en tant que kinésithérapeute, très souvent comme en séance préparatoire à une séance de thérapie manuelle, parce que ça entraîne une détente et c'est beaucoup plus facile de travailler. Je l'utilise aussi, j'ai beaucoup de sportifs qui viennent chez moi pour faire un espèce de check-up articulaire. Et j'en profite pour leur faire des séances de bol d'air parce que...
Vous n'allez pas me dire que ça soigne les rhumatismes aussi quand même?
Non, ça ne soigne pas les rhumatismes, mais chez les sportifs par exemple, ça booste leur performance.
Alors, vous pouvez parler, Madame Mercier. Madame Mercier est indignée par votre...
Non, mais moi je ne l'utilise pas pour soigner les rhumatismes.
Ah, vous ne l'utilisez pas pour ça?
Voilà. Je soigne manuellement. Hein.
D'accord.
Maintenant, c'est sûr que... dans la mesure où ça améliore tous les processus d'oxygénation, ça améliore aussi le fonctionnement du foie.
Donc, et c'est anti-inflammatoire, parce que quand on est en état d'hypoxie, on fabrique des cytokines inflammatoires.
Oui.
Voilà.
Décidément, je crois que je vais arrêter l'émission, je vais aller me faire tout de suite une séance de bol d'air.
Et comme en plus j'ai des clients qui sont en surpoids et qui ont notamment du diabète, je leur fais faire systématiquement du bol d'air.
Et vous avez constaté quoi ?
Eh bien, chez mes clients en surpoids, ça facilite la perte de poids. D'autant plus, en plus, ça les déstresse. Et ça facilite aussi chez les diabétiques de type 2 qui sont en surpoids, à partir du moment où où leur poids diminue, leur diabète s'améliore. Hein. Donc, il y a une amélioration globale. Et je l'utilise aussi chez tous mes clients qui sont insuffisants respiratoires, évidemment, ou qui ont des problèmes cardiaques. Oui. Puisque là, évidemment, on réoxygène le cœur et on améliore l'oxygénation chez tous ces gens qui sont en insuffisance respiratoire. Et il y a aussi autre chose, et j'aimerais en parler, c'est dans l'apnée du sommeil. Alors là, c'est extraordinaire. Déjà, dans l'amélioration du sommeil. Moi, quand je pars de mon cabinet le soir, j'en fais 6 minutes, je dors comme un loir.
Oui, alors j'allais vous poser la question, est-ce que vous-même vous utilisez cet appareil?
Oui, j'utilise, bien sûr, j'utilise régulièrement, et notamment en partant de mon cabinet, de façon à avoir une bonne nuit. Et j'ai des clients qui font de l'apnée du sommeil. Je me souviens, j'avais une cliente dont je soignais la colonne cervicale. Elle me dit, oh, je dors très mal, je dors de minuit à 4 heures du matin. Et je suis...
Quelle chance.
Je suis fatigué à 4 heures du matin quand je me réveille. En fait, elle reste en sommeil léger, vous voyez. Mm-hmm. Elle ne tombe jamais en sommeil profond pendant son sommeil. Mm-hmm. Eh bien, à partir de 3 séances, donc je l'ai invité à venir à partir de 19h au cabinet pour faire une séance. Eh bien, à partir de la 3e séance, elle a recommencé à avoir un sommeil normal, c'est-à-dire avoir un cycle de sommeil avec ses 25 premières minutes de sommeil léger et après ses 1h20 de sommeil profond. Donc, elle se réveillait toujours à 4h du matin, mais elle avait la sensation d'avoir bien dormi. Et elle a continué à faire ses séances, et en 3 semaines, sa durée de sommeil est passée de minuit à 4h du matin jusqu'à 7 heures.
Ouais.
En 3 semaines. Et tout ça sans drogue. Et ça, moi, je trouve...
Et avec une disparition des apnées ou...
Mais je ne sais pas, parce que elle avait un appareil à pression positive. Et quand elle est retournée à l'hôpital, ils lui ont dit, oui, ça va mieux, vous gardez l'appareil encore un an.
Ouais.
S'ils lui avaient refait un enregistrement nocturne de ses apnées, elle avait quand même 57 apnées à l'heure. C'est-à-dire pratiquement une apnée à la minute.
Une par minute, oui.
Eh bien, je pense qu'on aurait constaté une disparition des apnées. Et là, ça serait intéressant de prendre un panel, ouais, de 30 personnes et de faire une étude là-dessus. Je pense que je vais d'ailleurs contacter un médecin pour faire ça. Parce que là, vraiment, on a, vous voyez, au lieu de mettre les gens sous appareil à pression positive, on a vraiment une solution élégante avec réoxygénation du système nerveux, réoxygénation générale et amélioration du sommeil. Voyez.
Donc, vous ne voyez que des points positifs, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent...
Moi, je ne vois que des points positifs. Et je vais vous donner un autre exemple. J'ai, pour la kinésithérapie respiratoire, j'ai un petit appareil qui s'appelle un oxymètre de pouls, qui permet de connaître la saturation d'oxygène du sang. Eh bien, donc, quelqu'un de pas fatigué, il est à 97, 98. Et moi, je fais l'examen, j'étais à 95. Donc, j'étais fatigué. Je fais 2 minutes de bol d'air jaqué et je refais la mesure. J'étais à 98. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'en 2 minutes, j'ai été réoxygéné complètement. Là, on peut mesurer l'effet de l'appareil, vous voyez.
C'est-à-dire que ça a aussi un effet donc de réoxygénation musculaire.
De réoxygénation générale.
Générale, oui. Mais c'est... Alors, ça doit avoir, j'imagine que ça doit avoir un effet sur les crampes aussi, non?
Je sais pas. J'ai peu de gens.
Je n'ai pas vérifié ça. Pas de crampeux chez vous?
Non, il n'y a pas de crampeux, mais c'est tout à fait possible.
On n'a pas beaucoup le temps d'aller chez le kiné quand on a une crampe. On essaie de régler ça autrement.
Oui, tout à fait, oui. C'est possible.
En tout cas, je vous dirai, parce que je vais essayer maintenant.
Alors oui, vous essayez, et puis il faut en faire régulièrement.
Oui. Oui,
d'ailleurs, vous savez, quand on en fait une fois par jour, au bout de 15 jours, on sent qu'il y a une amélioration de l'effort physique. Hein. Moi, je me suis remis au vélo il n'y a pas longtemps, et grâce au bol d'air, j'ai très vite amélioré mes performances, alors que ça faisait 45 ans que je n'avais pas fait de vélo.
Ah oui, effectivement, oui.
Ouais.
C'est à peu près comme moi. Quoi.
Oui, voilà, exactement.
C'est-à-dire depuis que je suis tombé avec mes 3 roues à l'arrière.
Après, ça va être le bol d'or.
Et vous voyez, dans la fatigue chronique chez les personnes âgées, ça marche aussi très bien. Combien de gens se disent « oui, je suis fatigué », mais c'est un des éléments de traitement de ce syndrome de fatigue chronique. Tout le monde se plaint. C'est
ah oui, oui, moi je peux me faire imprimer une pancarte sur le dos avec « je suis fatigué »,« I'm tired », comme disent.
Exactement.
Personne ne dit ça d'ailleurs.
Exactement, je vois que vous avez un excellent... accent anglais.
Anglais, oui, je suis très remarquablement polyglotte. Monsieur Laudon, je vous remercie. Vous êtes kiné. J'indique que vous n'êtes pas parisien.
Non.
Et que, par conséquent, comme notre auditorat est essentiellement parisien, vous ne risquez pas de tomber sous les fourches codines de l'ordre.
Oui, oui.
Il n'y a pas de problème. Merci de votre témoignage.
À votre service.
Au revoir, monsieur.
Merci.
Voilà, c'était donc monsieur Laudon, qui est kinésithérapeute, et qui, en dépit de mes objurations, n'a pas pu trouver de défaut à votre appareil. Je suis bien embêté, je voudrais bien avoir un témoignage négatif. Il y en a ici?
Oui, il y en a dans les deux.
Alors allez-y, dites-moi. Attendez, d'abord on va donner la parole à madame Michel. Excusez-moi, parce qu'elle attend au téléphone. Et elle n'a peut-être pas que ça à faire, cette dame. Madame Michel?
Oui.
Bonsoir madame, bonsoir. Je vous remercie d'avoir accepté de nous donner votre témoignage. Alors, vous souffrez d'une pathologie qui est de plus en plus répandue, en tout cas dont on parle de plus en plus, c'est la sclérose en plaques.
Ouais.
Et vous avez trouvé, avec le Bolder-Jacquier, une amélioration de votre situation de santé.
Oui, énorme.
Mais comment cela se manifeste-t-il?
Comment cela se manifeste, c'est assez difficile à expliquer. J'y ai trouvé un grand confort. Il faut savoir que je perdais l'équilibre, que je marchais pas droit. Enfin bon, j'avais des tas de soucis. La médecine ne pouvait rien pour moi, mais ce qui s'appelle absolument rien. Tout ce que l'on a essayé a été un échec. Donc, je me suis rabattue sur le Bolder-Jacquier, effectivement, qui a été... Bon, je l'ai connu par la radio.
Uh-huh.
Oui, parce qu'il y a eu une émission, je ne sais plus sur quelle radio, une fois.
Ça doit être Marc Menant, non? Il faisait ce genre de choses
sur France Inter, si je peux me permettre. Mm-hmm. Je crois que c'est par là. C'est pas moi qui l'ai entendu, mais enfin, on m'a dit ça. Et de là, je me suis renseignée, j'ai téléphoné pour essayer d'avoir des renseignements, et j'ai investi tout de suite dans le Bolder. Et je dois dire que ça m'a amélioré la vie. Mmh. Est-ce qu'il s'appelle amélioré?
Est-ce que vous connaissez l'origine de votre pathologie?
L'origine de ma pathologie, elle est neurologique. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de soucis de contrariété, si vous voulez, je ne veux pas rentrer dans le détail de ma vie, ce qui fait que, du fait de mes soucis de, si vous voulez, de morale et tout ce qui s'ensuit, ma maladie s'est mise en circuit, si vous voulez.
Oui, alors c'est intéressant parce qu'effectivement, on dit souvent que la sclérose en plaques peut avoir des origines psychosomatiques.
Ah non, pas vraiment, parce que là, je peux vous dire que IRM, scanner et ponction lombaire sont positifs.
Oui, oui, mais ça, bon, alors si on se réfère aux travaux de Grodek, on s'aperçoit qu'il explique que la maladie peut être fabriquée par le malade lui-même. C'est très intéressant, ça.
Ça, c'est possible.
Il dit que c'est le ça du malade qui s'exprime.
Oui, oui. Mais ça, c'est possible. Ça, je ne nie pas ça. Je ne comprends pas pourquoi j'ai... Bon, je dis que c'est le Bolder et j'y crois, effectivement, j'y crois. Je veux absolument pas qu'on me dise que c'est du placebo, si vous voulez.
Ah non, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Moi, je crois d'abord que c'est pas parce qu'une maladie est psychosomatique que les médicaments qui la guérissent sont du placebo.
Oui.
Quelqu'un qui, pour des raisons psychosomatiques, n'arrive pas à dormir, si on lui donne un somnifère, il s'endort.
Tout à fait.
Donc là, il y a des traitements qui sont efficaces, même si la maladie est imaginaire.
Oui, oui.
Et moi, ce qui n'est pas le cas de la sclérose en plaques, bien entendu.
Oui, bien sûr. Et moi, je sais que dès que j'ai un souci, je prends mon bol d'air et ça me remet d'aplomb.
Donc, vous l'utilisez selon quelle périodicité?
Selon quelle périodicité, c'est variable. Je dirais qu'en principe, je devrais en faire tous les jours. Ce serait beaucoup plus raisonnable. Je suis pas trop raisonnable là-dessus. Étant donné que j'ai décidé de vivre, que j'ai dit que cette maladie ne m'aurait pas, et c'est ce qu'elle est en train de faire, si vous voulez, elle ne m'a pas. Mais dès que je sens que je vais pas bien, j'ai toujours recours au Bolder. Et le Bolder me sauve, à chaque fois.
Je crois que vous avez le meilleur médicament avec le Bolder, c'est la volonté de vous battre, en tout cas.
Tout à fait. J'ai une très grande volonté de me battre. Ça doit s'entendre à ma voix, d'ailleurs.
Oui, absolument. Vous avez une voix étonnamment claire et vigoureuse pour quelqu'un qui qui est atteint d'une sclérose en plaques, qui en général est une maladie qui me met littéralement KO.
Oui, je peux vous dire. Et je fais bien d'autres choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais comme je ne me laisse pas aller et que j'ai décidé que cette maladie ne m'aurait pas, je fais tout pour qu'elle ne m'ait pas. Bon, le bol d'air y participe. C'est clair que le bol d'air y participe. Il faut savoir que je ne marchais plus, je marchais avec des cannes. Maintenant, je marche sans cannes. Donc, j'ai fait de très, très gros efforts.
Même Madame Delanef est admirative, je vais vous dire. Pourtant, elle a dû en voir pas mal.
Eh bien oui, mais je vais vous dire que j'ai abandonné toute médecine. Parce que tout ce qu'on a voulu me faire, on m'a fait du bétaféron, on m'a fait des choses, des choses que la médecine connaît, si vous voulez, ça m'a complètement détruit.
Ça, je veux bien le croire, le bétaféron, c'est quand même pas
idéal. Oui, c'est très dur à supporter.
C'est certainement efficace, mais...
C'est très très dur à supporter. Le neurologue que j'ai vu, a tout essayé. J'ai passé plusieurs IRM, scanners, enfin tout ça, j'ai eu droit, ponction lombaire. Et bon, pour en arriver que le dernier traitement qu'on a voulu me proposer, c'était de la chimio. Et je l'ai refusé. Je l'ai refusé parce que j'ai dit, écoutez, je m'en sortirai toute seule. Et je dis que grâce au bol d'air et à tout ce que je peux faire à côté, j'ai regagné beaucoup de ma vie, pour moi de ma vie.
Et beaucoup d'énergie en tout cas.
Et beaucoup d'énergie, oui.
Merci madame, merci beaucoup de votre témoignage. Et qui est réconfortant et enthousiasmant, je dirais.
J'espère que beaucoup de personnes m'entendent parce que vraiment c'est la vérité.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, au revoir.
Au revoir madame. Voilà, et puis nous avons, alors vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez pas mal fréquenté les personnes atteintes de silicose.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire les mineurs essentiellement. Et donc là, nous avons au téléphone M. Berson, qui est lui atteint de silicose. Vous nous entendez, M. Berson?
Oui, je vous entends.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Est-ce que... Alors, je vais forcément vous poser des questions indiscrètes. Quel est votre degré d'incapacité ou de handicap?
Oui.
Votre maladie, je crois que ça se classe en pourcentage de...
C'est ça, j'ai 70% d'invalidité.
D'invalidité, oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que la silicose, c'est une maladie qui est consécutive à l'absorption de poussière de charbon essentiellement, je crois.
Ou de pierre, de silice.
De pierre. Vous êtes un ancien ouvrier de carrière ou de...
Tailleur de pierre.
Tailleur de pierre.
Oui.
Ah voilà, c'est ça. Un bon métier, mais effectivement avec des conséquences, là on le voit, qui sont quand même un peu lourdes. Et depuis combien de temps êtes-vous souffrant?
Il y a 10 ans que la médecine du travail m'a découvert cette maladie.
Et je peux vous demander quel âge vous avez?
63 ans à la fin de l'année.
Donc à 53 ans, vous étiez silicosé à...
J'avais que les symptômes, pas les effets.
Ah, vous aviez encore uniquement les symptômes.
Oui.
Ça s'est développé en combien de temps?
En 2 ans et demi.
Et alors, au bout de 2 ans et demi, vous étiez donc fortement handicapé à 70%.
J'ai pas été tout de suite à 70%, ça se fait pas comme ça.
Non, bien sûr, oui, c'est vrai, j'ai une médecine.
Les premières radios que j'ai passées, j'avais des taches, j'ai tué les poumons. Mmh. Et ces taches se sont transformées en trous. Parce que j'ai des champignons qui se sont logés dans les poumons, des aspergillus.
Oui.
Ou une aspergillose, comme vous voulez. Et c'est ça qui me fait saigner, qui m'a fait saigner pendant 5 ans et demi.
Donc si vous aviez des crachats sanglants, ou...
Oui,
c'est ça.
Hein. Même des hémorragies.
Oui. Et qu'est-ce qu'on vous proposait comme remède?
Eh bien, du sport anox.
Ouais.
Et quand je suis
ça, le sport anox, c'est pour
il y a 2 ans, on m'a donné après du VFN.
Ouais.
C'est un médicament sûrement très fort, mais j'avais toujours des problèmes, quoi.
C'est-à-dire pour soigner les trous, je vois pas très bien ce qu'on peut utiliser.
Et à la fin de l'année, la dernière semaine de l'année 2005, j'étais malade, si on peut dire. Je manquais d'oxygène.
Mmh.
Et chez moi, l'oxygène, quand j'ai plus d'oxygène, ça se traduit par une difficulté à parler.
Ouais.
Je ne peux plus marcher. Et je tousse. tout ce que je mange, je vomis. Et je me retrouve dans un état difficile.
Hein. Et alors, comment avez-vous découvert, comment avez-vous eu l'idée d'utiliser le bol d'air, Jacquier?
C'est un thérapeute d'Angoulême qui m'a dit, essaie le bol d'air Jacquier. Et le modèle qu'il avait à l'époque, il faisait trop de bruit. C'est un ancien modèle et je ne pouvais pas supporter ça.
Oui.
Mais il me dit, ils en ont fait un autre qui fait moins de bruit. Alors là, j'ai dit d'accord, je l'achète, j'essaie. Et dès les premières séances, pas de problème. Je ne tousse plus, je ne saigne plus, je vis 100 fois mieux.
Ah oui. Et est-ce que les progrès que vous ressentez, vous, se manifestent dans les examens médicaux?
Il y a 18 mois que je suis pas allé à l'hôpital.
Ah ben d'accord. Ça, c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui s'est causé à 70%. Et en passer 18 mois sans fréquenter les hôpitaux, c'est bien. Oui, effectivement. Je sais pas si c'est bien, mais enfin, c'est en tout cas un bon résultat. Est-ce que vous avez fait un peu de prosélytisme auprès, parce que j'imagine que vous avez des collègues d'autres tailleurs de pierre qui sont dans le même cas que vous.
Il y en a pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Il y en a pas beaucoup, non, parce que maintenant, avec les machines, avec le... Non, c'est très rare. Alors, comment je vous dirais ça?
Est-ce que vous pensez que si vous aviez connu cette thérapie plus tôt, ça aurait ralenti le développement de la maladie, ou simplement c'est un remède, c'est un moyen de pallier des symptômes, mais pas de guérir une maladie? Quelle est l'impression que vous avez là-dessus?
Ralenti, hein. C'est évident.
Ouais.
Ah oui. Parce que le problème de la silico, c'est le manque d'oxygène.
Ça l'aurait ralenti, donc.
Ah ça c'est terrible de manquer d'oxygène.
Bien sûr. Très bien. Monsieur Birson, je vous remercie de votre témoignage.
Voilà.
Et puis, écoutez, comme disent les Chinois, 1000 années de bonheur.
Ah ben, on m'a dit que j'avais vécu vieux.
Ah ben écoutez, alors il ne faut absolument pas faire mentir les gens, c'est très grossier. Merci, merci monsieur. C'est gentil. Merci d'être gentiment venu nous apporter votre témoignage.
Je vous remercie.
Mais tout ça me paraît assez convaincant, il faut bien le dire. Alors, et ce qui me paraît intéressant aussi, c'est que cette dame, qui est Madame Michel, ou ce monsieur, se manifeste, manifeste une satisfaction tout à fait, sans partage. À propos du bol d'air, ils sont allés jusqu'à l'acheter. Or, c'est quand même un matériel qui est assez cher au départ.
Mm-hmm.
On a même un message d'une auditrice qui nous dit, alors on va donner le prix tout de suite, c'est 1 500 €, je crois.
1 540 €, exactement.
Et alors, c'est amusant, son message, parce qu'elle dit, 1 540 €, c'est scandaleux, je préférerais 800 €. Oui, moi je comprends bien, c'est très,
moi aussi,
on peut comprendre. Vous aussi, vous préféreriez. Moi, je trouve, par exemple, que la Mercedes 600 est un peu chère. Je préférerais qu'elle soit à 2 000 €. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc? Vous m'en fichez, vous n'avez pas de meilleure voiture. Mais ce prix est justifié, j'imagine. Comment pouvez-vous le... Non, pas le justifier, mais enfin... Est-ce qu'il y a un usinage particulièrement délicat? Est-ce qu'il y a...
Alors, au niveau de la machine elle-même, tous les composants de cette machine sont des composants relativement coûteux. Eh bien, il y a aussi un autre aspect, c'est que, d'abord, c'est une fabrication française. Il y a la nécessité de faire des réglages, de bien vérifier la qualité des produits que l'on respire. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on était une petite entreprise. C'est donc une fabrication qui est semi-industrielle, qui n'est pas industrielle. Le jour où le bol d'air sera remboursé par la Sécurité sociale et que l'on pourra en fabriquer plusieurs milliers par jour, à ce moment-là, effectivement, les 800 euros ouais. Que réclame cette dame pourront être, et même peut-être en dessous. Donc, on est dans une problématique de développement relativement lent, parce qu'on n'est pas particulièrement soutenu par le monde médical.
Mais c'est le cas en général de tous les gens qui travaillent dans ce genre d'environnement.
Moi, j'avais créé quand j'ai créé la société Holiste il y a donc 18 ans. Mon objectif, c'était ça, c'était de fabriquer un appareil. Beaucoup moins cher que ce qui existait à l'époque, de façon à ce qu'il soit plus disponible.
Et le délai de livraison, combien de temps?
C'est une dizaine de jours actuellement.
Alors on a.
Alors il y a un suivi très constant, c'est-à-dire que.
En raison des produits déjà.
Il y a les produits, bien sûr. Bon, je dois dire que quand on a fait l'investissement de l'appareil, le coût de fonctionnement est totalement dérisoire. Donc, le coût du produit que l'on met à l'intérieur, c'est dérisoire.
Et on les trouve partout les produits ou uniquement chez vous?
Non, uniquement chez nous. Et ça c'est impératif. Hein. Oui, ben, je sais plus ce que je voulais vous dire. je voulais dire aussi qu'on pouvait peut-être louer l'appareil pour l'essayer, pour savoir de quoi il s'agit.
Puis on peut l'utiliser dans des établissements qui mettent à la disposition.
Tout à fait.
Alors on a le docteur Lépine au téléphone, je crois. Allô, bonsoir docteur.
Oui, bonsoir.
Docteur Lépine, je me proposais de vous demander votre opinion. Alors là, en tant que médecin, vous êtes le premier médecin qui va s'exprimer ce soir. Pas le premier docteur, puisque Madame Mercier est docteur en biologie, mais elle n'a pas droit au titre en France. Enfin, je veux dire, on ne peut pas appeler un docteur en biologie docteur en France.
Oui, c'est pas comme en Allemagne.
Voilà, c'est ça.
Il y a beaucoup de sortes de docteurs.
Et en Italie encore plus, où il suffit d'être passé devant la porte de l'université pour avoir le titre de dottore. Mais vous êtes docteur en médecine, et donc je serais très intéressé par votre opinion sur le bol d'air Jacquier.
Bah écoutez, ce qu'il faut bien comprendre avec le bol d'air Jacquier, c'est que en fait, il reproduit quelque chose qui est physiologique, qui est en fait une liaison qu'on appelle coopérative entre l'hémoglobine qui transporte l'oxygène et l'oxygène. Donc tout à l'heure, vous étiez émerveillé devant... tout ce que peut faire la nature, et ben il faut s'émerveiller devant ce qu'on appelle la courbe de dissociation de l'hémoglobine. L'hémoglobine est capable de s'adapter aux conditions environnementales. Et je prends un exemple, si par exemple vous faites un effort physique, tout à l'heure vous parliez des crampes, vous accumulez de l'acide lactique, vous êtes en acidose, votre température corporelle va monter, eh bien, votre hémoglobine va pouvoir relarguer plus facilement l'oxygène vers vos tissus. Si vous avez de la fièvre, vous avez un sepsis, une infection, même tableau, vous avez la fièvre va être utile, elle va permettre à votre courbe de dissociation de se déplacer vers la droite. Ça veut dire en fait que vous allez désaturer plus facilement votre hémoglobine et donc oxygéner plus facilement vos cellules. D'où l'intérêt de ne pas faire baisser la fièvre trop vite.
Absolument.
D'ailleurs, on dit toujours avec beaucoup d'humour que quand on a la grippe, sans traitement, ça dure une semaine et avec de l'aspirine, ça dure 8 jours. Donc voilà, c'est en fait le bol d'air Jacquier, c'est pas du tout une invention farfelue. Ça reproduit quelque chose qui est tout à fait physiologique, qui a été décrit d'ailleurs il y a très longtemps, puisque c'est un chimiste allemand qui s'appelait Bohr, en 1904, qui avait décrit ces modifications quand l'environnement change, quand on est plus acide, quand on a plus de gaz carbonique, quand on a plus de fièvre. Donc c'est important de bien comprendre ça, et c'est une liaison, vraiment quelque chose de très... une liaison bienfaitrice, on pourrait dire, entre l'oxygène et l'hémoglobine que reproduit l'appareil de Monsieur Jacquier.
Mais est-ce que vous avez une explication au fait que cet appareil dont vous nous dites finalement qu'il est, qui fonctionne très bien, qui donne d'excellents résultats, n'est pas plus répandu dans les établissements médicaux, dans les hôpitaux?
Ben, je pense que moi-même, étant anesthésiste, donc je me suis toujours intéressé au problème de l'oxygène, de l'oxygénation. Il m'est arrivé pendant plusieurs années de passer devant le stand holiste et de me dire bon, l'oxygène, je connais. On a déjà du matériel d'oxygénation à l'hôpital. Et en fait, l'oxygène qu'on distribue à un patient par des lunettes ou par voie nasale n'est pas du tout pareil, parce que dès que vous coupez l'oxygénation, au bout de 7-8 minutes, l'effet disparaît. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est que l'oxygène administré directement par voie nasale a un effet toxique. Toxique sur le poumon, ça entraîne des fibroses. Toxique sur l'œil, on sait que les nouveau-nés qui sont oxygénés à naissance...
Parfois des aveugles.
Oui, c'est ça. Donc en fait, on ne peut pas s'oxygéner en permanence. Un insuffisant respiratoire ne peut pas, ou devrait pas en tous les cas, respirer de l'oxygène à partir d'une bouteille en permanence. Par contre, avec le bol d'air, vous faites une petite séance de 3, 4, 5 minutes et vous avez un effet rémanent. Qui va durer facilement 5 heures, voire plus. Et là, donc, ça se passe au niveau des cellules. C'est-à-dire que l'oxygène, qui est lié à 97% à l'hémoglobine, va passer sous forme dissoute et va passer dans vos cellules. Donc, il faut aussi comprendre que le vieillissement dont on est tous victimes entraîne une hypoxie puisque tout à l'heure on a parlé de la mesure de l'oxygénation du sang par le saturomètre qui est une grande découverte. Ce vieillissement s'accompagne d'une baisse de la saturation en oxygène. On trouve très souvent chez les personnes âgées une hypoxie importante. Et c'est d'autant plus, disons, dangereux que l'hypoxie est asymptomatique la plupart du temps. Je vais vous citer un exemple. Il y a quelques années, une équipe de médecins d'une société d'assistance qui s'appelle Mondial Assistance s'était amusée à mettre des petites pinces, donc des saturomètres sur le bout du doigt des hôtesses de l'air. Et en fait, on se rendait compte que dès que l'avion montait à 30 000 pieds, donc ce qui correspond à peu près à une altitude de ce qu'on appelle la montagne à vache, 1200 mètres à peu près, eh bien la saturation en oxygène baissait de 98% ou 100% à 90%, sans aucun symptôme, sans mal de tête, sans signe périphérique. Et en fait, quand on a une saturation en oxygène à 90%, ça correspond à des pressions partielles d'oxygène dans le sang qui sont très effondrées. Donc en fait, ce qu'il faut bien expliquer aux gens, c'est que l'hypoxie, c'est quelque chose qui apparaît avec l'âge, qui apparaît avec aussi à l'effort, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est ubiquitaire dans la population. Tous les gens sont en manque d'oxygène, en particulier l'hiver quand on est dans les appartements qui sont
confinés,
hermétiquement fermés, voilà. Donc c'est ce que dit Jean-Paul Curté, qui est quand même un grand nutritionniste. Il explique que les carences ubiquitaires les plus courantes, c'est les carences en oxygène, et puis magnésium, vitamine E, acide gras oméga 3, etc. Mais l'oxygène est en bonne place dans ces carences.
Docteur, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Et parce que je sais que vous étiez très occupé, donc je vous remercie d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci encore, à bientôt.
Voilà. Ce qu'il faudrait surtout,
oui, je vous en prie.
Ce qu'il faut surtout souligner, en fait, je pense, Béatrice, merci, on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le rôle de l'inflammation. Quand on a une carence en oxygène chronique, on développe une inflammation.
On a évoqué ça, effectivement.
Et c'est en fait quelque chose de très important. Il y a des articles qui sont parus dans la presse américaine il y a 4 ans qui disaient que l'inflammation est pire que le cholestérol sur les maladies cardiovasculaires. Ouais. Et donc, quand on cumule les deux, on multiplie par 9 le risque de faire un accident cardiovasculaire.
Bon, ben, je vais vous quitter pour aller justement me précipiter vers le plus proche Paul Derjacquier. Merci, docteur.
Je vous en prie.
En plus du bol d'Erjaki, il existe une méthode simple pour la sclérose en plaques. Il faut écrire avec quelques timbres au docteur Jean-Pierre Masqui, 6 boulevard du Bouchage,
oui,
à Nice.
Et
vous l'avez déjà reçu.
Oui, oui, bien sûr.
Serge, s'il vous plaît, Serge Le Becquet, soignez-vous, car vous êtes notre bol d'oxygène.
C'est gentil.
Je saute. Quand j'ai des maux de tête, j'utilise le bol d'air Jacquier et cela s'arrête, c'est extra. Cela améliore-t-il l'asthme ?
Oui, c'est une des premières indications.
Chez mon dentiste, je profite de l'appareil Jacquet et c'est formidable. Pour répondre à l'auditeur canadien, mort aux vaches. Où peut-on trouver le bol d'air? Est-ce qu'on l'a dit déjà? Non, on l'a pas dit.
Alors, vous pouvez nous contacter au 03 85 25 29 27.
Vous répétez s'il vous plaît.
03 85 25 29 27. Par email contact, contact, holiste.com, le tout en minuscule. Nous avons également un site internet, donc http://, c'est le truc habituel, hein.
Oui.
Donc www.holiste.com. Enfin, nous aurons le plaisir d'être au Salon Marjolaine.
Salon Marjolaine.
Voilà, du 3 au 12 novembre 2006, au stand 0 au 19, au Parc Floral de Paris.
Merci beaucoup. Nous, Franck me fait signe que nous avons atteint les limites du temps. C'est passé très très vite. Je vous remercie, mesdames, d'avoir pris la peine de venir nous rendre visite.
Merci.
Et je crois que nous vous retrouvons prochainement pour Madame Delanef pour parler du vélo de Frola. Enfin, j'appelle ça le vélo de Frola, mais
la machine Frola.
La machine Frola que nos auditeurs connaissent pour avoir entendu Monsieur Frola en parler. Bonne semaine, que Dieu nous garde.
Merci beaucoup. Merci.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, co-dirigé par Daniel Amiche, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 25 octobre 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 26 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par...